Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. En cette année mondiale de l'astronomie, nous avons l'immense honneur d'accueillir ce soir M. Hubert Reeves, astrophysicien de renommée internationale, qui nous parlera de l'univers étoilé. Proche des étoiles, mais surtout des êtres humains, Hubert Reeves explore les liens entre l'apparition de la vie sur Terre et les événements à l'échelle cosmique. Cette activité est présentée en collaboration avec Science pour tous, dont la mission est de faire reconnaître et de promouvoir la culture scientifique et technique dans notre société. Je vous rappelle qu'il est interdit de prendre des photos, nous avons un photographe officiel, le BANQ, pour nos archives, ou d'enregistrer la conférence. Vous pourrez dire à vos amis qu'ils pourront la réentendre d'ici 48 heures sur le portail de BANQ. Je vous souhaite à tous une très belle rencontre. Monsieur Reeves.
Est-ce que vous entendez bien? Jusqu'à l'arrière? Parce qu'un jour comme ça, j'ai fait une conférence et à la fin, j'ai dit, est-ce qu'il y a des questions? Et les gens m'ont dit, ben, on n'entendait rien. Alors, c'est pas la peine. Si vous restez passif, s'il y a un problème avec la foi, vous levez les deux mains, vous criez, on n'entend rien. Autrement, on perd son temps. Ça n'a pas de sens. Je vais vous demander de ne pas faire de flash aussi pendant la conférence, s'il vous plaît. C'est très dur pour les yeux. Alors, nous sommes dans ce qui s'appelle l'année de l'astronomie, 2009, et la raison pour laquelle ça s'appelle l'année de l'astronomie, c'est qu'il y a 400 ans, c'est décembre 1609, janvier 1610, se sont passés des événements d'une importance capitale pour toute la pensée humaine. Très souvent, les connaissances scientifiques, faites avec des moyens scientifiques, une méthodologie classique, traditionnelle, arrivent à des résultats qui sont bien au-delà de simplement la sphère scientifique, mais qui affectent tout la pensée humaine, la philosophie, etc. Et ça, à cette période, décembre 1609, Galilée, ça s'appelle l'année l'astronomie parce que c'est le 400e anniversaire de cet événement, Galilée a pris son petit télescope, mais ce n'était pas un télescope, c'était une lunette. C'était une lunette bien inférieure à celle que vous avez pour trois fois rien dans les boutiques d'astronomie aujourd'hui. C'était vraiment le tout début. Il a regardé le ciel. Personne, il semble, avant lui, n'avait regardé le ciel avec des jumelles. Les jumelles existaient, mais elles étaient utilisées surtout par les militaires qui voulaient voir où étaient les forces ennemies, etc. Et en quelques nuits, avec son petit cahier, ses dessins, il a fait une série de découvertes qui ont révolutionné la pensée humaine et qui ont eu en particulier le résultat le plus remarquable, je dirais, c'est de découvrir que la Terre n'est pas le centre du monde. Ce qui était la perception acquise depuis très longtemps. Et tout d'un coup, tout cela a été renversé. Il y avait eu Copernic avant, Kepler, Tycho Brahe. Mais celui qui a eu vraiment l'intuition très clairement de cela, c'est Galilée. Et Galilée l'a eu en particulier en regardant la Lune. Et il a vu que sur la Lune, il y avait des montagnes. À l'œil nu, vous ne pouvez pas voir qu'il y a des montagnes sur la Lune. Vous voyez des dessins dans la Lune, mais vous ne voyez pas suffisamment bien pour dire qu'il y a des montagnes. Galilée s'est dit, la Lune a des montagnes, la Terre a des montagnes, la Lune est un astre, la Terre est un astre. C'est ça, l'élément fondamental de sa grande découverte, c'est de découvrir que la Terre est un astre comme la Lune et confirmer le modèle de Copernic, de l'image que vous connaissez, du Soleil au centre du système planétaire, des planètes qui tournent autour. Il le confirmait à partir de là. Il le confirmait aussi parce qu'il a regardé Jupiter, que l'on voyait jusqu'à récemment très bien à l'œil nu, avec des jumelles même faibles. On voit très bien que Jupiter a des satellites. Il a 4 satellites. Et dans les années 1610, au début, jour après jour, il observait Jupiter Et il voyait que les satellites changeaient de place. À un moment donné, il y en avait deux d'un côté, puis deux de l'autre, et puis après, il y en avait trois et un. Et il s'est aperçu que les satellites tournaient autour de Jupiter et que c'était comme un modèle réduit du système solaire. Le Soleil avec ses planètes qui tournent autour, Jupiter avec ses satellites, maintenant on sait qu'il en a beaucoup plus, il en a au moins 70, mais à cette période, les seuls qui étaient visibles avec sa petite lunette, c'était ces quatre satellites, et c'était une image, un modèle miniature du système solaire, ce qui confirmait l'idée que de telles choses pouvaient exister, que la Terre pouvait être un satellite du Soleil, comme les planètes. Et on a découvert après coup, et ça c'est une découverte plus récente, qu'on a un modèle grand format qui est le centre de notre galaxie. Alors notre galaxie, on n'a pas de photo évidemment puisque nous sommes dedans, mais nous avons autour de nous des galaxies qui y ressemblent, et en particulier voici une galaxie qui s'appelle, qui sait comment elle s'appelle ? Bravo, Andromède. Andromède, c'est une des seules galaxies visibles à l'œil nu. Pendant l'été, si vous trouvez un beau ciel étoilé, loin des lampadaires et des lampes, et un beau ciel où vous voyez très bien les étoiles, et si vous avez quelqu'un avec vous qui peut vous indiquer, vous pouvez voir une petite tache lumineuse, blanchâtre, et c'est une galaxie, c'est celle-là. Elle s'appelle la galaxie d'Andromède. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que toutes ces galaxies ont au cœur des galaxies un trou noir. Un trou noir gigantesque. Et ce trou noir a des étoiles qui sont en orbite autour de lui. Notre galaxie, nous avons un trou noir. Ça semble maintenant tout à fait généralisé. Toutes les galaxies du ciel ont au centre un trou noir énorme. Le nôtre, il est très modeste. Il ne fait que 3 millions de fois la masse du Soleil, ce qui est peu de chose par rapport à celui d'Andromède. Il fait 40 millions de fois la masse du Soleil, et d'autres galaxies, c'est 3 milliards de fois. C'est quelque chose de tout à fait excentrique, extravagant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert récemment que ces trous noirs sont également des centres d'attraction, de même que le Soleil tient les planètes en orbite autour de lui, de même que Jupiter tient ses satellites en orbite autour de lui, ce trou noir, chaque trou noir, est le centre d'un centre de gravité autour duquel tournent des étoiles. Mais évidemment, qui tournent beaucoup plus vite, parce que le trou noir étant tellement plus massif, son champ de gravité est beaucoup plus grand. Et par exemple, notre Terre, qui tourne autour du Soleil à 30 km par seconde, ça a l'air beaucoup, 30 km par seconde à l'échelle astronomique, c'est pas grand-chose. Les étoiles qui tournent autour de notre galaxie tournent à 3000 km par seconde. 3000 km, on commence à approcher, c'est 1% de la vitesse de la lumière. Donc, c'est passé, ces nuits-là, des événements qui ont révolutionné la pensée humaine et qui ont un écho, un effet sur toute la civilisation. Bertolt Brecht a écrit une pièce qui s'appelle Galilei, où il montre jusqu'à quel point cette connaissance du fait que la Terre n'est pas le centre du monde influence même des pêcheurs, des pauvres pêcheurs. Ça change la vie, ça change toute la perspective. Ça, c'est important de le dire, de mettre en évidence l'importance de la connaissance sur la pensée humaine. Et ça, c'est un peu en jeu. Je reviens à ce qui se passe ici aujourd'hui avec ces problèmes des coupures de crédit pour le télescope du Mont Mégantic, les coupures de crédit, les problèmes de l'UQAM. C'est comme s'il y avait une dévalorisation de ce qui n'est pas rentable. Et c'est comme si on était obligé continuellement de dire il y a des choses qui ne sont pas rentables du tout. Savoir comment sont les galaxies, savoir qu'il y a des trous noirs au centre des galaxies, ça n'a aucune rentabilité économique, mais même en temps de crise économique, ça reste une valeur fondamentale. C'est de rappeler que la connaissance est une valeur fondamentale. Pour qui ? Ben pour ceux qui s'y intéressent. Beaucoup de gens disent. Merci. J'entends souvent des gens qui disent « qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne de savoir ça ?» Ben, je leur dis « si ça ne vous intéresse pas, c'est votre affaire, ça vous regarde. » Il se trouve qu'il y a plein de gens qui trouvent que c'est important. Et c'est important parce que c'est toute l'évolution, non seulement de la personne, mais de la pensée humaine qui est affectée. Et aujourd'hui, on va parler des étoiles et des hommes. Et on va essayer de réfléchir un peu sur le rapport, les rapports nouveaux que l'astronomie, la science nous a appris sur notre influence, sur notre rapport. Alors là, je vais vous proposer une expérience que vous pourrez faire la prochaine fois que vous serez devant un beau ciel étoilé, quand il n'y aura pas de lumière à l'horizon, et vous allez oublier tout ce que vous savez. Bien sûr, tout ça maintenant, c'est dans les livres d'astronomie. Et vous allez vous remettre dans l'esprit de l'homme préhistorique, le peintre de Lascaux, par exemple, qui sortait la nuit, et lui, il n'y avait pas de problème avec la pollution lumineuse. Les étoiles, il les voyait sans problème. Eh bien, il se trouvait devant ces étoiles, devant cette voûte étoilée, et ça, c'était le profond mystère. C'est resté des milliers d'années. Qu'est-ce que c'est que ces petites lumières qui sont dans le ciel ? Sont-elles proches ? Sont-elles loin ? Essayez, mettez-vous devant un ciel étoilé et demandez-vous comment est-ce que je peux dire si ces étoiles sont juste là, très haut, très près, je veux dire comme au planétarium, où vous pourriez presque les toucher si vous aviez une longue perche. À quelle distance peuvent se trouver ? Qu'est-ce que c'est qu'une étoile ? C'est resté pendant des centaines de milliers d'années, probablement les hommes les plus anciens qui ont commencé, on ne sait pas à quel moment nos ancêtres hominiens ont commencé à regarder le ciel, mais c'est resté un mystère profond et profond empreint d'une très grande angoisse très souvent. Et c'est vrai qu'il y a de l'angoisse à ne pas savoir ce que c'est. Je connais beaucoup de textes, de poèmes qui ont été écrits qui disent combien, même au XVIIIe siècle, les gens pensaient que ces étoiles étaient des monstres, étaient dangereuses. Et en fait, évidemment, tant que vous ne savez pas quelque chose sur la nature, vous pouvez être inquiet. Aussi longtemps qu'on n'a pas su que le tonnerre, c'était des décharges électriques, on a pensé que c'était Dieu ou un Dieu ou Jupiter qui protestait, on s'est mis à genoux. Il y a eu des pluies d'étoiles filantes au 18e siècle, il y a des 19e siècle, une pluie d'étoiles filantes en 1835, je pense. Alors vraiment, il y en avait beaucoup. Il y en avait 3-4 à la fois. Généralement, quand il y a une nuit d'étoiles filantes en août, il y en a 2 ou 3. Là, c'était 3 ou 4 en même temps. Et on voit les gens qui sont à genoux et le curé avec sa, qui envoie de l'eau bénite parce qu'il pense que c'est une malédiction. Vous voyez, cette importance de la connaissance, c'est également de nous apprendre, de nous rassurer. Non pas qu'il n'y a pas des choses inquiétantes, il y en a encore plein, mais nous savons mieux les localiser. Et nous ne sommes plus inquiets quand il y a le tonnerre, vous ne vous jetez plus à genoux pour implorer le pardon du ciel. Pourquoi ? Parce que dans vos livres de physique, vous avez appris que le tonnerre, c'est un phénomène naturel. Vous avez appris que les éclipses sont des phénomènes naturels. Qui d'entre vous a déjà vu une éclipse totale de soleil ? Mais alors, totale. Alors, si vous n'en avez jamais vu, je vous le conseille d'en voir au moins une fois dans votre vie. C'est vraiment une expérience. Les étoiles, les éclipses de soleil, je ne parle pas des éclipses de lune, je parle du soleil, de la lune qui passe devant le soleil. Il y en a en moyenne une par année. Si vous cherchez sur Google, vous allez avoir la liste de toutes celles qui vont paraître pendant les années à venir. Le problème, c'est qu'elles ne sont visibles que d'une petite partie de la Terre. Donc, il faut s'arranger pour y aller. Et moi, j'en ai vu une dans le nord du Chili, dans les hautes montagnes, mais c'était une excursion de tous les diables d'arriver jusque-là. Une des dernières était au pôle Nord, par exemple. Le voyage au pôle Nord, ce n'est pas sur la route des grands vols ordinaire, il faut y aller. Mais je pense que vous pouvez essayer de le faire et je vous le conseille pour la raison suivante. C'est vraiment un exemple précisément de ce que ça fait et ce que ça ne fait pas, de savoir ce qui se passe. On le sait que maintenant qu'une éclipse, c'est un phénomène banal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Lune passe devant le Soleil et qu'on ne voit plus le soleil pendant au maximum 3 ou 4 minutes, et qu'ensuite il reparaît. Donc il n'y a rien là de dramatique. Mais je vous défie de ne pas être ému quand vous verrez le soleil disparaître devant vous.
quand vous verrez tout d'un coup la nuit arriver, et quand vous verrez le soleil commencer à reparaître, c'est quelque chose, les gens pleurent. J'ai vu des foules au Chili, des gens qui pleuraient, des gens qui étaient pris d'une émotion extrêmement intense. Et ça vous montre ceci, pourquoi ces gens pleurent? Pourquoi ces gens, sachant qu'il n'y a rien de grave, c'est même tout à fait banal, pourquoi ces gens pleurent? C'est, je pense, parce que ça fait revivre d'anciennes craintes archétypales, qui étaient les craintes qu'avaient les gens dans le passé quand ils ne savaient pas. Les Mexicains, comme vous savez, les Incas sacrifiaient les jeunes gens, jetaient leur cœur dans le feu parce qu'ils pensaient que c'était un monstre qui bouffait le soleil et que le soleil était faiblissant et que donc il fallait lui donner de l'énergie. Et lui donner de l'énergie, bien évidemment, c'était le prendre où il en a le plus. Ce sont les jeunes gens avec un cœur vraiment en bon état. Alors on massacrait, on retrouve des quantités de choses. Mais le fait de revoir une éclipse totale, ça, vous vous apercevez que ce sont des émotions que vous ne contrôlez pas. Une fois, vous le savez que c'est rien. Mais pourtant, au moment où le soleil disparaît, il se fait comme une espèce de silence, il se fait comme une espèce d'émotion. Puis quand il reparaît, évidemment, les gens portent du champagne, boivent du champagne, c'est la fête. Les gens qui ne se sont jamais vus, qui ne se connaissent pas, se saluent, viennent se parler. C'est vraiment une expérience que je vous conseille de faire, comme je vous conseille de faire cette expérience qui consiste à vous remettre dans la peau de l'homme primitif, à regarder les étoiles et à vous poser la question, supposons que je ne sache rien de ce qu'on sait maintenant, comment je pourrais arriver à savoir quelque chose? Qu'est-ce qui pourrait me dire si c'est près ou si c'est loin? Est-ce que c'est gros ou est-ce que c'est petit? Comment ça tient? Et tout ça, c'est l'évolution de la science moderne qui nous a permis, par le travail de centaines de milliers de gens, d'une patience incroyable, surtout depuis Galilée, qui est celui qui a lancé tout cela, mais les Grecs déjà s'y intéressaient. Et grâce à cela, nous savons énormément de choses que je vais vous montrer. Nous savons énormément de choses sur ce qu'est une étoile et en particulier quel rapport il y a avec nous. En quoi nous sommes reliés? Nous ne sommes pas simplement reliés par l'émotion que vous procure un beau ciel étoilé. Le message de la science, c'est qu'il y a beaucoup plus que ça dans notre rapport aux étoiles, que les étoiles font partie de notre vie, sont présentes dans notre passé, ont joué un rôle tout à fait fondamental. Alors, je reviens à cette question des galaxies et on va faire maintenant un peu de tourisme, un peu de tourisme cosmique. Je vais vous présenter des images de quoi ça a l'air l'univers. Ça a l'air de quoi? À très, très grande échelle. À la plus grande échelle imaginable, nous avons maintenant des photos qui ont été prises avec le télescope Hubble, celui qui passe au-dessus de nos têtes tous les 45 minutes, et qui nous donne une idée de l'aspect de l'univers à la plus grande échelle possible. Alors, je vous présente d'abord cet élément, une galaxie. Une galaxie, c'est quoi? C'est un système d'étoiles. Ça contient à peu près 100 milliards d'étoiles comme le Soleil. Nous vivons dans une galaxie qui n'est pas celle-là, évidemment, mais qui ressemble à celle-là, qui est une galaxie qui a des bras spiraux, vous voyez, qui s'étendent. Et je vous fais remarquer que ces bras spiraux ont des composantes sombres et des composantes plus lumineuses. Vous allez les voir mieux dans l'image suivante. Voilà une autre galaxie, c'est une galaxie qui, elle, n'est pas visible à l'œil nu, il faut des télescopes. Elle est dans la constellation qu'on appelle, dans les chiens de chasse, je disais tout à l'heure qu'elle est dans la Grande Ourse, je pense qu'elle est dans les chiens de chasse, n'importe. Une galaxie, une caractéristique qu'on retrouve souvent, c'est cet aspect de spirale, c'est-à-dire qu'à partir d'un noyau central très brillant, jaune généralement, au centre duquel il y a un trou noir que vous ne voyez pas, parce que définition, les trous noirs, vous ne les voyez pas, mais maintenant, on sait qu'il est là. Il y a des bras qui s'étendent et qui s'en vont très loin dans l'espace, plus ou moins réguliers, et qui sont composés, qui ont deux composantes très nettes. Une d'entre elles, ce sont des étoiles, et ce sont des étoiles nouvelles. Toutes les étoiles que vous voyez briller là, ce sont des étoiles qui viennent de naître, et à l'intérieur du bras, flanqué à l'intérieur une bande sombre. Une bande sombre, ce sont des nébuleuses, ce sont des masses de gaz et de poussière qui sont extrêmement massives et qui sont la matière placentaire qui a donné naissance aux étoiles. Les étoiles sont nées par l'effondrement de ces matières. Alors là, vous avez le premier stade ici, les masses de gaz qui s'effondrent, et voilà le résultat qui arrive ici. Donc, voilà donc ce que c'est qu'une galaxie. Et maintenant, vous allez voir une image de l'univers dans sa plus grande dimension, et c'est celle-ci. Ça, c'est aussi un document extrêmement important. Ça a l'air de quoi, l'univers, c'est ça. L'univers, c'est un archipel de galaxies. Tout ce que vous voyez là, ce sont des galaxies. Ce ne sont pas des étoiles, ce sont des galaxies. Celles qui ne sont pas très loin, vous les voyez, vous voyez un peu mieux leur forme, vous devinez leurs bras spiraux. Mais les toutes petites, tout petits points bleus comme ça ici, tout ça, ce sont des galaxies. Notre univers contient au moins 100 milliards de galaxies. 100 milliards de galaxies contenant chacune de l'ordre de 100 milliards d'étoiles. Vous voyez que ça fait beaucoup d'étoiles. Et c'est l'allure, l'aspect général de l'univers, avec certaines galaxies qui sont assez proches, certaines galaxies qui sont beaucoup plus loin. Et pour donner des chiffres, je reviens tout à l'heure à celle-ci. Celle-ci, donc, est notre plus proche voisine. Elle est située à 3 millions d'années-lumière. Ça veut dire que la lumière que vous voyez, l'image de cette galaxie, l'a quittée il y a 3 millions d'années. Et qu'elle voyage à 3 millions d'années, c'est le début des hominiens. Elle voyage depuis 3 millions d'années, elle nous arrive comme ça aujourd'hui, après 3 millions d'années de voyage. Et si vous voulez savoir, si vous dites oui, mais je la vois telle qu'elle était il y a 3 millions d'années, mais maintenant elle a l'air de quoi ? Eh bien, il faut être patient, il faut attendre 3 millions d'années. Et dans 3 millions d'années, vous verrez, elle avait l'air de quoi quand vous avez posé votre question. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette dimension, les objets proches, c'est une des plus proches de nous, elle est déjà à 3 millions d'années-lumière. Alors, c'est quoi une année-lumière ? C'est la distance que parcourt la lumière en un an. La lumière, elle fait 300 000 km par seconde. En un an, elle fait 10 000 milliards de kilomètres. C'est ça une année-lumière, 10 000 milliards de kilomètres. Cette galaxie se trouve à 3 millions de fois 10 000 milliards de kilomètres. Vous voyez que la perception de la... Nous vivons dans un univers gigantesque. Là, vous pouvez le voir plus exactement. Celle-ci est à 25 millions d'années-lumière. Et les toutes petites que vous voyez là, ils sont situés à 7, 8 milliards d'années-lumière. 7, 8 milliards de fois 10 000 milliards de kilomètres. Ça, c'est ce que nous appelons les dimensions de l'univers observable. On l'appelle observable parce qu'on peut l'observer. On a des moyens, les techniques et la théorie nous permettent d'observer des galaxies jusqu'à une dizaine de milliards d'années-lumière. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a plus au-delà? Mais non. Ça veut dire qu'on ne peut pas les voir. S'il y en a, on ne peut pas les voir. Et la question est posée de savoir combien y en a-t-il ? Ben pour l'instant, si on pose la question, est-ce que le nombre de galaxies est un très, 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 très gros nombre ? Ou bien est-ce qu'il est infini ? Est-ce que l'univers est infini ? Ou bien s'il est fini ? Être fini, ça voudrait dire qu'on pourrait donner un chiffre pour le nombre de galaxies. Et peut-être qu'il prendrait tout le tableau, mais ce serait quand même un chiffre. Un univers infini, on ne peut pas donner de chiffres, ça veut dire qu'il est plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer. Cette question reste une question globale qui se pose encore. Il y a 3 jours, devait partir un télescope qui s'appelait le télescope Planck. C'est un télescope, un radiotélescope, qui va nous apporter des informations nouvelles sur ce plan. Est-ce qu'il répondra à cette question ? On n'en sait rien. L'excitation de la recherche, c'est que généralement, quand vous préparez un instrument pour répondre à une question, vous apercevez que cet instrument ne répond pas à votre question, mais il vous dit des choses bien plus intéressantes. C'est la partie excitante de la recherche. Il y avait comme quelqu'un comme ça qui préparait une demande de subvention, et dans sa demande, il devait remplir un formulaire, et c'était écrit « Qu'est-ce que vous pensez trouver avec cette recherche ?» Il a écrit « Si je le savais, je ne la ferais pas. » C'est évident. C'est ça le but de la recherche, c'est s'exposer à cette possibilité que vous ne trouverez pas ce que vous avez cherché, mais que vous allez trouver bien autre chose qui, quelquefois, est beaucoup plus excitant. Alors, nous sommes dans une période charnière. Il y a quelques jours, devait partir le télescope Planck, un autre qui s'appelle le télescope Herschel, qui va étudier dans l'infrarouge, qui va donner des images dans l'infrarouge, qui devraient être fabuleuses. Bon, ça a été retardé, c'était à Kourou, ça devait partir en Guyane, c'était retardé, bon, c'est normal, il y a toujours une question de si le vent est trop fort, on n'envoie pas les fusées, on attend qu'il fasse beau, etc. Et en même temps, a eu lieu le début du grand accélérateur du CERN à Genève, ce grand accélérateur qui est le plus puissant qui a jamais existé dans le monde. C'est un immense anneau qui fait 27 kilomètres, qui est à 100 mètres sous terre. Je vous en montrerai une photo tout à l'heure. Cet accélérateur est tombé en panne au moment où on l'a mis en marche, ce qui n'est pas anormal. Quand vous faites un instrument tout à fait nouveau, ce n'est pas un prototype dont vous avez les plans chez un ingénieur. C'est un instrument nouveau que personne n'a jamais fait. Il est normal que ça mette un certain temps avant que les choses se placent. Et elles vont se placer. On pense qu'il va être lancé au printemps. Et cet instrument, lui, il va essentiellement recréer des situations qui existaient dans les temps les plus anciens de l'univers. Alors là, il y a une jonction entre la physique des particules qui consiste à accélérer les particules à grande vitesse et retrouver ce qui se passait dans l'univers quand l'univers était à ses hautes températures, et en même temps à observer comment est l'univers maintenant. Ça, c'est, en ce moment, c'est une grande excitation en science. Ces deux projets pourraient, dans les années qui viennent, nous apporter des choses fondamentales, peut-être rien du tout aussi. Ça fait partie du jeu, de savoir qu'il y a des éléments imprévus et imprévisibles, et ça rend les choses intéressantes. Mais je voulais vous montrer cette image, parce que c'est là que vous êtes né, un beau matin. Vous êtes né quelque part dans un univers, et voilà l'image de cet univers. Cet univers, c'est un archipel, on peut le décrire comme un archipel de galaxies. Et la question se pose, bien sûr, de savoir, sommes-nous seuls dans l'univers ? Est-ce qu'il y a quelque part dans une de ces petites galaxies, peut-être un pays avec une ville, peut-être on va l'appeler Montréal, et puis peut-être elle a une grande bibliothèque, et dans cette grande bibliothèque, il y a des gens qui sont assis dans une salle et il y a un conférencier qui pointe vers une galaxie comme ceci, qui se trouve à être la nôtre de chez lui, et qui se demande, est-ce qu'il y a des gens à cet endroit ? Est-ce que la vie existe ? Est-ce que nous sommes seuls dans l'univers ? Ou est-ce qu'il y a de la forme de la vie ? Alors la vie, ça peut vouloir dire de la vie très primitive, bien sûr, parce qu'on sait bien que sur notre Terre, pendant 3 milliards d'années, la vie se réduisait à des petites cellules, des algues bleues qui vivaient dans l'océan. Et depuis moins d'une centaine de milliers d'années, sont apparus des gens qui posent des questions, des gens qui peuvent se poser des questions. Est-ce qu'il y a quelque part dans cet immense univers avec ses milliards de galaxies, ses milliards d'étoiles, des gens qui se posent des questions ? Alors, sur le plan scientifique, on n'a aucune preuve que ce soit oui ou non. On n'a rien détecté jusqu'ici qui nous permette d'affirmer qu'il y a d'autres civilisations, d'autres gens qui posent des questions ailleurs dans l'univers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Nous n'avons pas de preuves. Mais, comme on dit, absence de preuves n'est pas preuve d'absence. Ça veut simplement dire qu'on continue à chercher, on trouve maintenant beaucoup de planètes autour d'autres étoiles, c'est déjà un premier pas. On se doutait que des phénomènes comme le système solaire, une étoile avec des planètes qui tournent autour, ça devait être quand même un phénomène assez répandu. Il y a tellement d'étoiles, mais ça restait une idée tant qu'on n'a pas eu de preuve. Et la preuve en science, c'est la détection. Ça veut dire, est-ce qu'on peut détecter, montrer qu'autour de telle étoile, il y a effectivement des planètes comme autour de notre système solaire. Ce serait très difficile, si on était autour d'une étoile voisine, de voir notre système solaire. Le soleil est tellement brillant qu'il éblouit tout. Et de voir des petites planètes faibles comme le sont les nôtres autour de cette étoile, c'est une prouesse qui a été réalisée la première fois en 1995. C'est récent. Ce sont des astronomes suisses qui, les premiers, ont apporté la preuve, qui ont découvert une qu'on appelle une exoplanète. Exoplanète, ça veut dire une planète qui tourne autour d'une étoile qui n'est pas le Soleil, qui est une autre étoile. Maintenant, ça se poursuit très vite. On en a 300. On a déjà 300 exoplanètes. On connaît plusieurs systèmes planétaires qui ont au moins 3 ou 4 planètes. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus facile de découvrir des grosses planètes que des petites. Vous pouvez plus facilement détecter un corps qui ressemble à Jupiter ou à Saturne qu'un corps qui ressemble à la Terre. La Terre, c'est très modeste, c'est presque rien. Et on a de bonnes raisons de penser, mais peut-être on se trompe, que la vie ne peut apparaître que sur des planètes de type comme la Terre, des planètes sur lesquelles il y a de l'eau, et de l'eau sur les 3 phases, glace, liquide et vapeur. Dans notre système solaire, nous sommes la seule planète qui a ces 3 systèmes à la fois. On pense que si la vie existe ailleurs, elle doit exister sur des planètes relativement semblables à la Terre. Il faut toujours un peu se méfier de ces raisonnements, parce que les gens peuvent vous dire « vous manquez d'imagination, peut-être il y a des choses beaucoup plus extravagantes ». C'est vrai, mais dans une première étape, on part comme ça, en se gardant derrière la tête que peut-être ce n'est pas vrai. Donc on a trouvé 350 planètes. D'ici quelques années, peut-être moins de 5 ans, si il existe des planètes de type terrestre, c'est-à-dire un socle rocheux solide sur lequel on peut déposer de l'eau, vous ne pouvez pas développer, faire des océans dans lesquels la vie se forme sur une planète gazeuse. Il faut vraiment un socle rocheux comme la Lune, comme les Vénus, comme les Mercure, sauf que sur ces 3 planètes, ces 3 satellites ou astres, il n'y a pas d'eau liquide. Nous sommes la seule planète qui ait de l'eau liquide, mais d'ici quelques années, on saura probablement ce qui en est. Alors, on aura probablement détecté des planètes de type terrestre et on aura probablement détecté des planètes avec de l'eau. Ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'il y a de la vie. Il ne faut pas inverser les propositions. On pense que pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de l'eau, mais ce n'est pas suffisant qu'il y ait de l'eau pour qu'il y ait de la vie. Il faut que la vie se soit développée. Personne ne sait très bien comment elle s'est développée sur la Terre. On sait que notre planète, quand elle est née, c'était une boule de lave incandescente à 2000 degrés. Elle était évidemment stérile. On sait qu'après quelques millions d'années, elle avait refroidi. L'eau s'était déposée et elle grouillait de petits animaux, d'algues bleues, de diatomées. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que des molécules qui étaient déjà présentes, des atomes, se sont associées pour faire des molécules, ça on le sait bien, mais comment est-ce que ça s'associait pour faire des systèmes capables de se reproduire? La vie, c'est vraiment spécial. Ça a des propriétés extraordinaires. La capacité, par exemple, de se réguler. Là, vous êtes ici, votre corps est toujours en train de se réguler. Votre température va rester à 37 degrés, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Il y a des propriétés invraisemblables de la vie. Comment cela s'est passé? Pour l'instant, il n'y a pas de réponse claire. Il n'y a pas de théorie crédible de l'origine de la vie. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est arrivé. C'est arrivé, la preuve, c'est qu'on est là. C'est arrivé au moins une fois. Est-ce que ça veut dire que si c'est arrivé une fois, ça devrait se produire de façon très fréquente? C'est toujours dangereux d'utiliser ce genre de raisonnement parce que vous faites appel à des questions de probabilité. Est-ce que on dit souvent que ce serait vraiment improbable que nous soyons seuls? Mais il faut savoir calculer les probabilités. Et pour calculer les probabilités, il faudrait savoir comment ça marche. Aussi longtemps que vous ne savez pas comment ça marche, vous ne pouvez rien calculer. Donc, il est tout à fait possible que nous soyons seuls. Il est tout à fait possible que cet univers fourmille de gens qui vont à des conférences pour se poser des questions comme celles qu'on se pose aujourd'hui. Mon opinion personnelle, mais c'est une opinion purement gratuite, basée sur rien, c'est plutôt ce qui s'appelle une intuition ou une intime conviction, c'est qu'il y en a beaucoup, c'est qu'il y en a des millions. Mais je n'ai aucune preuve. Si vous me dites comment vous prouvez ça, je vous dis, je n'ai pas de preuve. C'est simplement ce qu'on appelle un feeling. Mais c'est ce qui va se développer, c'est ce qu'on va apprendre, et ce sera évidemment le moment où on apprendra, où on découvrira, si ça se trouve, qu'il y a d'autres planètes intelligentes et habitées. Ça va être un très grand moment qui va encore une fois influencer toute la pensée humaine. C'est quelque chose qui va avoir un impact majeur. Mais maintenant, nous allons revenir à l'univers et nous allons revenir à cette nuit. Là, vous marchez tout seul dans l'obscurité, vous regardez dans le ciel et vous dites, c'est quoi qu'il y a là? C'est toujours intéressant de se mettre en amont des connaissances, c'est-à-dire d'essayer de se mettre dans la tête des gens qui n'avaient pas vos réponses et d'essayer de voir ce que ça veut dire. Et les réponses deviennent plus intéressantes si vous avez vécu une période où vous n'aviez pas la réponse. C'est ce que j'enseigne souvent quand j'enseigne la physique. Je dis aux enseignants, ne commencez pas par donner les réponses. Ne commencez pas par dire, voilà les lois de la physique, comme dans un répertoire, comme dans un manuel. Essayez de faire vivre aux étudiants ce qui se passait quand on ne savait pas et ce qui s'est passé quand on a appris, l'espèce d'exaltation qui a été la découverte de le tonnerre, ce n'est pas la voix de Dieu, une éclipse, ce n'est pas un dragon qui mange le soleil. Il y a comme la connaissance, c'est quelque chose qui est important, qui est une sorte de douceur pour l'âme, si on peut dire. Pas toujours. Découvrir la bombe atomique, ce n'était pas nécessairement une douceur pour l'âme. C'est à deux tranchants. La science n'a pas apporté que des choses positives, elle a apporté des vrais dangers aussi. Mais là, aujourd'hui, on se place sur le plan de la connaissance. Et une question qui se posait depuis longtemps, c'était, cet univers a-t-il toujours existé? Voilà une question que vous pouvez vous poser quand vous regardez le ciel dans les conditions que je vous ai dites. Vous vous dites, est-ce que cet univers a toujours existé? C'est une question qui a hanté, évidemment, les humains pendant des milliers d'années. Et celui qui, le premier, a donné une réponse, a formulé une réponse à cette question, c'est Aristote. Aristote, dans un de ses livres, écrit... Ça, c'est une autre image de l'univers. Je vous la présente ici parce qu'il faut relier tout ce qui existe. Il n'y a pas que des galaxies, des étoiles, il y a aussi des vols d'oiseaux. Et essayer de comprendre la réalité, c'est essayer de l'apprendre dans toutes ses dimensions. Mais je reviens à notre ami Aristote. Aristote écrit en 335 avant Jésus-Christ, vous voyez que c'est pas récent. L'univers a toujours existé et il existera toujours. Rien ne change. Pourquoi Aristote dit ça? Aristote, c'est pas quelqu'un qui colportait des idées gratuites. Sur quoi se basait-il pour affirmer que l'univers a toujours existé? Eh bien, il se basait sur le fait qu'il avait la connaissance des travaux faits par des astronomes chaldéens, babyloniens, nos rois mages, qui observaient le ciel déjà depuis des milliers d'années, qui avaient amassé énormément de connaissances. Évidemment, ils n'avaient pas d'instruments, il n'y avait pas de télescope, tout ça se faisait à l'œil nu, mais ils avaient amassé énormément de connaissances et ils avaient remarqué que les constellations reviennent chaque année de la même façon et ils en avaient conclu que l'univers était, ce qu'on dit aujourd'hui, statique ou stationnaire, c'est-à-dire inchangeant, qu'il n'y avait pas de changement, et que s'il n'y avait pas de changement, ça voulait dire que l'univers a toujours existé, et que l'image que vous avez du ciel quand vous sortez comme ça la nuit, c'est cette image d'éternité. Voilà ce qu'Aristote affirmait, et inchangeant. Alors, là, Aristote est un peu plus détaillé, il dit... Bien sûr, tout le monde sait qu'il y a du changement. On sait bien que le bois pourrit, que le métal rouille, que les montagnes s'érodent, que les vallées se remplissent. Mais Aristote disait, tout ça, c'est dû à petite échelle. À notre échelle terrestre, toute petite échelle, où nous vivons dans une matière corruptible. Notre matière est corruptible, le bois pourrit, le métal rouille. Mais Aristote séparait le monde en deux parties. Il disait, il y a le monde à notre dimension, anecdotique, aurait-il dit, et il y a le monde à grande dimension, et celui-là est fait de matière incorruptible, inchangeante. Et cette idée, donc basée sur les affirmations des astronomes babyloniens, va rester la pensée dominante pendant 2000 ans. L'influence d'Aristote était énorme, et c'est ce qu'on a cru pendant plus de 2000 ans, et c'est ce qui a été montré faux au début du XXe siècle, et nous avons maintenant d'excellentes raisons de penser qu'il se trompait. L'univers n'a pas toujours existé. Existera-t-il toujours? On n'en sait rien. Mais il est en profond changement. Il y a du changement dans les plus grandes échelles possibles, non seulement sur la Terre, mais aussi dans le ciel. Nos observations nous montrent que les étoiles naissent, vivent et meurent. Et surtout, une des grandes découvertes de cette période, c'est le fait que l'univers est en expansion. Ça veut dire quoi, en expansion? Ça veut dire que les galaxies, cette image que vous avez vue tout à l'heure, si vous pouviez attendre, là il faudra attendre assez longtemps, mais on peut le prouver autrement, si vous attendiez suffisamment, vous verriez que toutes ces galaxies s'éloignent les unes des autres. Un peu comme quand on fait un zoom, on voit tous les objets s'éloigner les uns des autres. Ça, c'est la grande découverte des années 1920, c'est Edwin Hubble, avec son télescope, qui a découvert qu'il y avait du changement, et pas simplement à petite échelle, qu'il y avait du changement à grande échelle, que l'univers n'est pas un changement, inchangeant, il n'a pas toujours existé, il a un âge. Il a un âge et il a une histoire. Ce qui ne change pas n'a pas d'histoire. Ce qui change a une histoire, bien sûr, parce qu'il se passe des événements. Il se passe des événements qui vont changer le passé. Par exemple, si vous voulez comprendre la situation politique ici au Québec, vous avez intérêt à connaître l'histoire du Québec. Si vous ne connaissez rien, vous ne pourrez rien comprendre à rien. Et cette découverte fondamentale que l'univers a une histoire a changé toute l'optique des scientifiques et des astrophysiciens qui sont devenus des historiens. Comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui essaie de reconstituer une histoire? C'est un historien. Et un historien, c'est quelqu'un qui essaie de trouver des preuves que la situation était différente dans le passé, qu'il peut reconstituer la vie. L'exemple classique, c'est la préhistoire. Comment étaient les êtres humains dans le passé? Les êtres humains, il y a 1000 ans, on commence à avoir des bonnes données. Il y a 10 000 ans, c'est plus faible. Il y a 100 000 ans, on a encore moins. Mais c'est le métier des préhistoriens de trouver des preuves, des objets, des fossiles qui leur permettent de dire, voilà comment vivait l'homme de Cro-Magnon, celui qui dessinait Vallon-Pont d'Arc ou celui qui dessinait Lascaux. Les astrophysiciens se sont retrouvés dans la même situation. La situation de dire, d'accord, cet univers a une histoire. Et cette histoire, on va essayer de la raconter. Mais pour raconter une histoire, il faut avoir des preuves. Il faut avoir des preuves que ce qu'on affirme est correct, que ça représente bien le passé. Et donc, c'est faire de l'histoire, c'est chercher des fossiles. C'est chercher des preuves, des documents qui datent d'une période très ancienne, dont on peut penser qu'ils n'ont pas été altérés d'une façon importante, et qu'on peut interpréter en termes de voilà comment vivaient les gens à cette période. Donc les astrophysiciens deviennent des préhistoriens, ils essaient de dater le passé, c'est-à-dire ils explorent un territoire. Et le territoire, c'est le territoire du temps. C'est tout à fait analogue au territoire, les grands explorateurs du 18e siècle exploraient par exemple l'Australie. Et explorer l'Australie, ça veut dire aller débarquer et aller voir un peu ce qu'il y avait. Et progressivement, on a exploré l'Australie, l'Afrique, l'Antarctique. Aujourd'hui, on explore Mars. C'est toujours la même démarche de passer de régions connues à des régions inconnues. Et il y a toujours une frontière, il y a toujours ce qu'on peut appeler un horizon. C'est là où vous en êtes à un moment donné. Nous avons des cartes, par exemple, où vous représentez l'Australie en 1780, et vous avez sur le pourtour de l'Australie ce qui est connu, les cours d'eau, les montagnes, les villages, les populations, aux mœurs étranges. Et à l'intérieur de l'Australie, c'est blanc. Et c'était écrit « Terre inconnue », « Terra incognita ». Ça veut dire « On n'est jamais allé là encore ». On va y aller, c'est notre projet. Mais de la même façon, les astrophysiciens explorent le temps. Ils essaient de reculer dans un territoire qui leur permet de dire ce qui s'est passé. Et l'expression « l'univers n'a pas toujours existé », ça veut dire quoi? L'univers a un début, c'est curieux comme expression. Bien, évidemment, ça impose la question « qu'est-ce qu'il y avait avant ?» Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un début? Parce qu'un début, ça se situe dans le temps. Vous êtes né un beau jour, vous savez très bien que vos parents existaient, que vous êtes un événement dans un tissu de temps qui existait. Mais qu'est-ce que ça veut dire de parler de du début de l'univers? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait rien avant? Eh bien, on n'en sait rien. Ça, c'est encore une des grandes questions de la science. La réponse à la question « qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang ?» c'est « on n'en sait rien ». On explore. C'est pas « on sait », »,« on ne sait pas ». C'est là qu'on est. C'est le début de la terra incognita. Et avec les années, on peut reculer de plus en plus, et peut-être dans quelques années, on pourra reculer un peu plus. Aujourd'hui, on date l'univers à 13,7 milliards d'années. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, 13,7 milliards d'années? Ça veut dire que nous n'avons aucune évidence provenant de quoi que ce soit qui soit plus ancien que ça. Et une des façons de dater l'âge de l'univers, par exemple, nous avons des quantités d'étoiles, et aujourd'hui nous sommes en mesure de donner les âges à beaucoup d'étoiles. Le Soleil a 4,5 milliards d'années, les Pléiades ont 380 millions d'années. Donc on a un répertoire sur un grand nombre d'étoiles, un pedigree qui dit quel est leur âge, et on note qu'il n'y a aucune étoile qui a plus de 13 milliards d'années, par exemple. On fait la même chose avec les atomes. Il y a des atomes radioactifs, le thorium, l'uranium. Ces atomes ont des temps de vie très longs. L'uranium, c'est 6 milliards d'années, l'uranium 238, 235, 1 milliard d'années, le thorium 18 milliards d'années, je pense. Et en étudiant ces atomes, on arrive à faire une chronologie, c'est-à-dire à donner un âge aux atomes. Et là, on fait la même chose. On se dit, quels sont les plus vieux atomes qu'on trouve? Et on ne trouve aucun atome qui a un âge supérieur. Là, c'est moins précis, mais ça tourne quand même autour de 13-14 milliards d'années. Il suffirait de trouver, d'identifier une étoile qui aurait 100 millions d'années pour mettre toute la théorie à plat. Parce qu'une étoile ne peut pas être plus vieille que l'univers, ça n'a pas de sens. La cohérence d'une théorie demande que les plus vieux objets de l'univers ne soient pas plus vieux que l'univers. Et c'est le fait qu'on a plusieurs méthodes de calcul de l'âge de l'univers et que ces méthodes donnent à peu près le même âge qui rend la situation crédible. Des méthodes totalement différentes, des techniques qui sont datées une étoile, ça n'a rien à voir avec la méthodologie que vous étudiez pour dater un atome, par exemple, ou pour dater une naine blanche. C'est très différent. Et pourtant, ça donne des réponses analogues et compatibles. Et ça, c'est un élément très important en science. C'est que des techniques différentes sur une question donnent des réponses analogues. Parce qu'a priori, on pourrait penser que la question n'a aucun sens, mais en fait, de trouver ces analogies, c'est un point important. On trouve que l'univers, on ne connaît rien qui a plus que cet âge-là, et donc on admet, quand je dis on admet, ça ne veut pas dire c'est la vérité. La science n'est pas un domaine de vérité. La science n'est pas un domaine de dire c'est comme ça définitivement. C'est un domaine, au contraire, qui doit et qui est capable de s'adapter à toute nouvelle découverte. C'est ce qui est sa faiblesse qui fait sa force. Elle peut s'adapter à des situations nouvelles. On est toujours dans un processus en devenir. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, en 2009, en avril 2009, on peut dire que ce qui paraît le plus vraisemblable, le plus cohérent dans tous les scénarios qu'on essaie de faire du passé de l'univers, c'est ce scénario. L'univers a un âge dans le sens, non pas qu'il n'y avait rien avant, parce qu'on ne sait rien, dans le sens que tout ce qu'on connaît est cohérent avec l'idée que tout ce qui nous entoure est plus jeune que 13,7 milliards d'années. Ça, c'est important, parce que c'est la différence entre le domaine, disons, de la révélation, la vérité. La science n'est pas un domaine de vérité. Elle dit simplement, voilà, je peux vous donner des arguments qui peuvent vous rendre crédible à un être intelligent, à un être qui a le sens du doute, qui a l'esprit critique, auquel on ne raconte pas n'importe quoi, qui demande des preuves. Elle peut vous donner un scénario qui, elle peut crédibiliser jusqu'à un certain point, sachant que c'est jamais définitif. Mais alors, ce qui est important, c'est précisément cette découverte fondamentale qui se passe au début du XXe siècle. L'univers est un univers historique. C'est un univers qui est en changement, non pas seulement au niveau local, anecdotique, mais au niveau des plus grandes dimensions. C'est un univers qui change. Alors, comment change-t-il? Eh bien, on va y arriver, mais avant, on va passer à un autre point. Une autre découverte, celle que je vous ai mentionnée tout à l'heure, j'y reviens, c'est cette information que je vous ai donnée. Galilée 1609, c'est pour ça qu'on est dans l'année de l'astronomie, c'est qu'on célèbre ce moment où Galilée a apporté la preuve que la Terre n'est pas le centre du monde, ce qui a un impact énorme sur toute la pensée. Alors, Galilée a apporté bien autre chose, et il a apporté ce qu'on appelle l'astrophysique. Ça veut dire quoi, l'astrophysique? Ça veut dire qu'avant Galilée, on pensait qu'il y avait deux mondes. Il y avait le monde corruptible à notre échelle et le monde incorruptible à grande échelle, dans lequel rien ne changeait jamais, dans lequel les étoiles devaient avoir la forme d'une sphère, parce que ce sont des idées platoniciennes, la sphère est la forme parfaite, les orbites des planètes doivent être des cercles, parce que ce sont les cercles parfaits. Cette idée séparait le monde en deux parties, le monde d'en bas et le monde d'en haut. Le monde d'en bas, c'est celui qui est à notre échelle, le monde d'en haut, c'est celui qui est au-dessus. Et ça aussi, c'est une idée qui était admise depuis Aristote, l'incorruptibilité du monde au-dessus. Mais ça aussi, malheureusement, pour lui, c'était faux. Il se trompait encore une fois. Il ne sait pas, il a dit plein de choses valables, mais il y a des choses qui sont... Galilée montre que le monde d'en haut est comme le monde d'en bas. Ce qui veut dire que les lois qui régissent le monde d'en bas sont les mêmes que celles qui régissent le monde d'en haut. Ce qui fait l'astrophysique, c'est-à-dire la physique a des lois qui régissent aussi bien la Terre et son entourage que le ciel. Et un de ceux qui a joué le rôle le plus important peu après, c'est Newton. Newton, justement, a montré que la force qui fait tomber les pommes est la même que celle qui retient la Lune autour de la Terre. Voilà un bel exemple de l'astrophysique. Cette uniformité, c'est le même monde partout, cette uniformité des mouvements, de la nature, de la réalité, des lois qui régissent. Et Newton est le premier qui a pu expliquer le mouvement de rotation de la Lune autour de la Terre autour du Soleil, et le premier qui a pu prévoir, avoir des prédictions sur les mouvements des planètes, sur les mouvements des comètes. C'est vraiment une révolution, mais au départ, elle vient de cette constatation par Galilée, du fait qu'on peut appliquer les lois du ciel à la Terre et que ça marche. Mais Newton avait un autre problème devant lui, et le problème, c'était le suivant. Vous prenez, je vais revenir à cette image, et là, vous avez quoi? Vous avez plein de corps célestes. Ce sont des galaxies. Ces galaxies s'attirent. La loi de l'attraction universelle c'est que tous les corps s'attirent les uns les autres. Il y a une force d'attraction entre les différents corps. Alors, Newton avait réussi à résoudre le problème de l'attraction pour ce qui est de la Terre et la Lune. La Lune et le Soleil, la Terre et le Soleil, c'est-à-dire ce qu'on appelle le problème à deux corps. Quand vous avez deux corps, il a pu prévoir quel devait être le mouvement résultant de la force de gravité. Mais Newton s'était beaucoup questionné, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, Newton n'avait pas ces images, mais Newton voyait quand même, qu'est-ce qui se passe quand vous avez plein d'étoiles? Comment ça se comporte un univers dans lequel il y a de la matière qui est, non pas deux corps, mais de la matière qui est répartie et qui en a un très grand nombre, sachant que ces corps sont soumis à la gravité, comment réagissent-ils? Ben, Newton a passé toute la fin de sa vie à essayer de répondre à ce problème, n'a jamais trouvé la réponse, il a renoncé, il a dit « je renonce, je n'arrive pas à savoir quel est l'effet de la gravité sur l'univers ». Et qui a résolu ce problème? Eh bien, vous le savez, c'est notre ami Einstein. En 1917, Einstein écrit la théorie de la relativité générale qui, justement, permet de répondre à cette question, permet de dire comment se comporte un univers qui n'a pas seulement deux corps, mais qui en a des milliards, des milliards, des milliards. Et cette théorie, donc, se place en 1917. Et vers cette époque, un peu plus tard, arrive M. Edwin Hubble, qui, avec son télescope, vous le voyez là, arrive à observer les galaxies et découvre cette observation dont je vous ai parlé, qui est l'expansion de l'univers. Hubble, ça a été vraiment le premier surpris. Il s'attendait. Hubble, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a pris ce bel instrument. On lui a dit, voilà, on vous a fabriqué un bel instrument. C'est le télescope du Mont Palomar. Et maintenant, voilà ce que vous pouvez faire avec cet instrument. Et la science, c'est beaucoup comme ça. On fait un instrument, ensuite, on regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec, puis on voit quels sont les résultats. Alors, avec cet instrument, vous pouvez mesurer la distance des galaxies, mais aussi leur vitesse par l'effet Doppler, qui est l'effet des flics sur l'autoroute qui savent si vous dépassez la vitesse simplement avec le mouvement des ondes. De la même façon, on peut mesurer la vitesse des galaxies. Et à quoi Hubble s'attend? Ben, probablement à ce qu'il trouve des galaxies qui se rapprochent, des galaxies qui s'éloignent, que ce soit un mouvement un peu aléatoire. C'est pas ça du tout. Il découvre que toutes les galaxies s'éloignent. Et toutes les galaxies s'éloignent dans un mouvement extrêmement particulier. Celles qui sont proches s'éloignent lentement. Et celles qui sont loin s'éloignent vite. C'est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Toutes les galaxies sont en éloignement les unes des autres. Et cette idée, cette découverte de Hubble, a été associée à la théorie d'Einstein par Georges Lemaître, qui, dans les années 28, a fait la première version de ce qui s'appelle la théorie du Big Bang. La théorie du Big Bang, ça résulte de la combinaison des théories d'Einstein et des observations de Hubble. C'est le trio. Le trio, il faut, pour faire la physique, il faut avoir des théories, autrement vous ne pouvez pas interpréter les faits. Il faut des faits, autrement la théorie ne vous sert à rien. Et si vous avez les deux, si vous avez des faits et des théories, et que vous êtes astucieux, et que le maître était extrêmement astucieux, vous pouvez faire une théorie, et il a fait la première version de ce qui s'appelle la théorie du Big Bang. Alors, la théorie du Big Bang, elle dit quoi? Eh bien, elle dit ceci. Elle dit, l'univers est en expansion, les galaxies s'éloignent. Si vous ajoutez la théorie de la relativité, ça veut dire qu'il se refroidit. C'est tout à fait l'analogue d'un gaz. Quand vous comprimez un gaz, il se réchauffe. Quand vous le détendez, il se refroidit. L'univers se comporte un peu comme un gaz de galaxie. Une analogie, mais qui n'est pas trop mauvaise. Il se comporte comme un gaz de galaxie, donc il se refroidit. Donc, le maître dit... Si on tourne le temps à l'envers, vous savez, comme quand vous avez une bobine de film, vous pouvez le défiler à l'envers, bien, vous allez voir quoi? Bien, vous allez voir les galaxies se rapprocher, évidemment. Et si ces galaxies se rapprochent, c'est un peu comme si vous comprimez un gaz. Donc il se réchauffe. Donc le passé de l'univers devait être plus chaud. Ça, c'est la théorie qui a été émise dans les années 28 et 30 et qui a été ce que le maître appelait l'atome primitif, qui est une version préliminaire du Big Bang, mais les idées sont assez semblables. C'est que l'univers est en changement. Là, vous en avez la preuve. Un univers qui se refroidit et qui se dilate, qui devient de plus en plus dense, ce n'est pas un changement local, c'est un changement aux plus grandes échelles possibles. Et cette théorie, donc, a été émise dans ces années 28-30 et elle a eu très peu de succès. Elle a eu très peu de succès parce que ça paraissait assez incrédible. Les gens disaient ça a l'air un petit peu d'une tradition biblique, ça rappelait la Bible, ça rappelait ce qu'on trouve dans les différentes mythologies avec le début de l'univers. C'était considéré comme pas très sérieux et je me souviens qu'il y avait des amis philosophes à moi qui disaient qu'il y avait des objections philosophiques contre cette théorie. Je dois vous dire que je n'ai jamais compris ce que la philosophie avait à faire avec cette théorie. Et que de toute façon, si la théorie est mal à l'aise avec les observations, ben c'est la théorie et c'est la philosophie qu'il faut changer. On ne change pas les observations pour adapter à la philosophie, on change la philosophie pour s'adapter aux observations. Mais ça a été longtemps. Moi, quand j'étais étudiant aux États-Unis, dans les années 50, 55, s'intéresser à la théorie du Big Bang, c'était un peu sulfureux. Ça avait l'air un peu, d'autant plus que le pape avait admis que c'était le fiat lux et tout ça. Il y a eu un joyeux mélange de théories, de philosophie autour de ce thème qui a duré pendant toutes ces années, jusqu'à ce qu'apparaisse un homme génial, un de plus, qui a eu une idée qui a été... Alors cette personne, c'est lui. Il s'appelle George Gamow. C'était un de mes professeurs quand j'étais à Cornell. C'était un espèce de géant russe qui se penchait pour entrer dans les ascenseurs. C'était vraiment un personnage et qui aimait beaucoup raconter des histoires drôles. Et au cours, il nous racontait des histoires et puis il en riait. Et nous, on avait fini de rire et on attendait que M. Gamow ait terminé de rire pour qu'il reprenne son cours. Parce qu'il avait ce fameux rire des Russes, là, ha, 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 ha. C'était interminable, son rire. Mais Gamow, qui est un rigolo, vous le voyez à son air, il a un petit air espiègle qui n'est pas désagréable. Gamow a dit, bon, on va quand même être sérieux avec cette histoire du Big Bang. On va supposons que ça soit correct, supposons que ça soit vrai, cette histoire que l'univers dans le passé était plus dense et plus chaud. Ça veut dire quoi? Eh bien, il y a une autre loi de la physique qui dit que plus un corps est chaud, plus il émet de la lumière. Quand vous faites fondre du métal, il devient visible quand vous êtes autour de 1000 degrés, et ensuite il devient orangé, rouge, orangé. Plus un corps est chaud, plus il émet de la lumière. Ça, c'est une loi universelle de la physique. Donc Gamow s'est dit, si c'est vrai cette théorie, ça veut dire que non seulement le passé était très chaud, est très dense, mais il était extrêmement lumineux. Comme on dit en physique, la densité d'énergie lumineuse devait être bien supérieure à la densité d'énergie matérielle. D'où l'idée qui est devenue cette terminologie imagée du Big Bang, c'est-à-dire l'image d'une explosion. Ce n'est pas une très bonne image, mais il y a quand même un peu de ça. Et Gamow s'est dit, imaginons que ce soit vrai. Imaginons qu'il y a eu un moment dans un passé lointain où l'univers était plein de lumière, c'était un flash extraordinaire. Et maintenant, posons-nous la question, qu'est-ce qui est arrivé de cette lumière maintenant? Où est-elle passée? On ne peut pas sortir de l'univers. L'univers, c'est tout, il n'est pas question de sortir de l'univers. Il faut qu'elle soit encore là quelque part. Et il s'est mis à faire des calculs, et il a calculé qu'il devait y avoir effectivement un résidu, un vestige, une pâle lueur, pas visible à l'œil nu, mais visible avec des radiotélescopes. C'était ça dans les années 1940. En 1940, c'est à peu près vers la fin de la guerre, et on a fait des radars. C'est-à-dire qu'on ne peut utiliser, faire de l'astronomie millimétrique. C'est celle qu'on utilise avec les télévisions. Les télévisions transportent les images avec des longueurs d'onde de l'ordre du millimètre, invisible à l'œil, mais parfaitement détectable avec votre antenne, c'est pour ça que vous avez des images. C'est aussi ce qu'on utilise pour les micro-ondes. Un micro-ondes, c'est aussi des ondes millimétriques. Et donc, Gamow est arrivé à la conclusion que si la théorie avait quelque chose de vrai, il devait rester un pâle écho de ce flash universel sous la forme d'un rayonnement dont les longueurs d'onde étaient de l'ordre du millimètre, et il a prévu exactement quelle devait être la forme de ce rayonnement, quelle devait être sa fréquence, quelle devait être sa distribution en intensité. Il a publié ça dans les années 48, à une période où lui-même n'y croyait pas vraiment parce qu'il pensait que ce résidu était tellement faible qu'on n'arrivera jamais, avec toutes les lumières parasites, on n'arrivera jamais à le détecter dans les années 48. Mais heureusement, dans les années 65, deux personnes, Penzias et Wilson, deux ingénieurs de la Bell, qui avaient eu comme mission, la prédiction de Gamow avait été oubliée par pratiquement tout le monde, mais ces deux astronomes, la NASA, moi j'ai travaillé à cette période à la NASA à New York, et le problème qu'il y avait, c'est qu'on lançait des satellites, mais on les perdait. C'est-à-dire qu'on pouvait les suivre tant qu'ils étaient au-dessus de nos têtes, mais après on perdait le contact quand ils étaient rendus autour de la Terre. Donc la Bell Telephone, qui travaillait pour la NASA, a commissionné ces deux personnes et leur a dit « Vous allez trouver la meilleure longueur d'onde pour poursuivre les satellites, pour ne pas les perdre chaque fois qu'on les envoie. » Et ils ont bâti ce télescope très primitif que voilà, des espèces d'énormes antennes. Et en 1965, voyez, 48 la prédiction de Gamow, 65, ces deux personnes disent « Ça marche, on détecte les satellites, on peut les suivre, ça marche trop bien. Ça marche même quand il n'y a pas de satellite. » On continuait à entendre une espèce de friture qui était là jour et nuit, et tout le monde se disait « Qu'est-ce que c'est que cette friture? Il n'y a pas de satellite dans le ciel. » Alors on se disait « C'est peut-être un tel qui est en train de se raser à l'étage en dessous avec son rasoir électrique. » C'était pas ça. On s'est dit « Ça doit être encore les Américains, Washington, la US Navy qui fait des instruments secrets. » On a réussi à avoir les renseignements. Il n'y avait pas d'instruments secrets qui pouvaient produire ça. De plus, c'était continuel, jour et nuit. Et pendant un an complet, ça n'a pas bougé, c'est-à-dire ça continue à crépiter pendant un an. Et là, ces gens se sont dit, ça c'est un rayonnement qui est répandu partout. La preuve, c'est que la position de la Terre ne l'influence pas, non plus que le jour et la nuit. Et Gamow leur a écrit une lettre en leur disant, si vous aviez lu la bonne littérature, vous sauriez qu'en 1948, j'ai prévu l'existence de ce rayonnement comme une conséquence nécessaire de la théorie du Big Bang. Et ça, ça a été le coup de foudre, évidemment. Les gens se sont dit, on a beau aimer cette théorie, on a beau la trouver inacceptable sur le plan philosophique, une théorie qui peut faire des prédictions avec une telle précision, la précision dépassait une partie de 1%. C'est vraiment une des expériences les plus exemplaires qui existent. Exactement ce qui est la marche normale de la science. Une théorie fait des prédictions avant que la mesure soit faite. Si vous les faites après, on peut toujours vous soupçonner d'avoir arrangé les choses. Mais si vous les faites avant et que vous, ce que vous prévoyez est observé exactement comme vous l'avez prévu, eh bien, il faut la prendre au sérieux. Ce qui ne veut pas dire que c'est la vérité, encore une fois. Ce qui veut dire que c'est une bonne piste. C'est une piste à explorer. Et depuis cette période, alors je vais vous montrer cette image maintenant. On a envoyé des satellites dans le ciel. C'est un satellite Planck, justement, pour objectif de la mesurer. Je vais vous montrer une image qui est une vraie image. Ce n'est pas une image de synthèse, qui est l'image de ce rayonnement fossile, c'est-à-dire ce rayonnement tel qu'il a été émis, non pas au moment du Big Bang, mais 400 000 ans plus tard. 400 000 ans, ça peut être long, mais par rapport à 13,7 milliards d'années, vous êtes pas mal près du début. 400 000 ans après le Big Bang, ce rayonnement a été émis, Ce rayonnement a été émis quand l'univers était à 3000 degrés. 3000 degrés. Aujourd'hui, l'univers est à moins 270 degrés Celsius, c'est-à-dire 3 degrés absolus. Donc, vous voyez, on est dans une période où l'univers était beaucoup plus chaud, 3000 degrés. Et cette image, vous allez la voir, c'est une des couleurs codées, évidemment, parce qu'il n'y a pas de couleur, l'œil, ça ne correspond pas à des couleurs réelles, c'est codé, je ne vous l'expliquerai pas. Mais je vais vous la montrer parce que c'est important, parce que c'est aussi un document majeur. C'est le document qui fait que les scientifiques maintenant, physiciens, astrophysiciens, sceptiques et autres, considèrent la théorie du Big Bang comme une théorie valable, comme la meilleure piste pour remonter dans le passé. Donc, c'est là. Là, voilà. Voilà l'univers tel qu'il était quand il avait 400 000 ans et qu'il était à 3000 degrés. Et les points que vous voyez là, les couleurs sont codées. En fait, le rouge représente des régions plus chaudes, le bleu des régions plus froides. Nous donne énormément, c'est un des documents les plus importants aujourd'hui, qui nous permet de remonter et de savoir comment était l'univers quand il avait 400 000 ans. Et en particulier, un des résultats les plus importants, je ne peux pas vous le prouver parce que ce serait assez long, les conclusions qu'on peut en tirer, c'est qu'à cet univers, à cette époque, l'univers était largement instructuré. C'est-à-dire, il n'y avait pas de galaxies, il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas de planètes, il n'y avait pas de satellites, il n'y avait pas d'êtres vivants, il n'y avait même pas de molécules, il n'y avait même pas d'atomes, il n'y avait même pas de carbone, d'azote et d'oxygène. Ça, c'est la découverte fondamentale que l'univers du premier temps est un univers instructuré et que la structuration, ça fait partie de l'histoire de l'univers. Nous vivons dans un univers qui est né très chaud, très dense, très lumineux, c'était les trois premiers, mais totalement instructuré. Et sur cet univers s'exerçaient déjà des forces que nous connaissons, nous avons la preuve qu'elles étaient là déjà et exactement avec leurs mêmes propriétés, la force de gravité, la force nucléaire, la force électromagnétique, la force faible, toutes ces forces étaient déjà présentes et étaient à l'œuvre à mesure que l'univers se refroidissait, se sont formés progressivement tous les corps que nous connaissons aujourd'hui, y compris notre corps. Nous sommes un des résultats de cette longue aventure qui commence à cette période dans lequel l'univers est chaud, dense, lumineux, instructuré, mais possède des lois de la physique qui sont exprimées par des forces, la constante de Newton, la constante de Planck, etc., toutes ces constantes. Et grâce à ces forces, progressivement, la matière va se structurer. Et elle va se structurer d'une façon assez particulière que je vais vous décrire par une analogie. Je vais vous la décrire par une analogie avec le langage écrit. Je vais vous rappeler des choses que vous connaissez depuis toujours, mais ça va être utile ensuite pour faire la comparaison. Vous prenez le langage écrit. C'est fait comment? Vous retournez sur les bancs d'école. D'abord, il y a des lettres. Il y a 26 lettres ici. Ailleurs, il y a d'autres alphabets. Il y a au moins 100 alphabets sur la Terre, mais toujours, toutes les civilisations ont un alphabet. Ces lettres, vous les associez pour faire des mots. Et ces mots ont une propriété que n'ont pas les lettres, que je vais vous illustrer. Je vais dire N-O-I-R. Une image est née dans votre cerveau, ce que représente le mot noir. C'est une propriété qui ne vient pas du fait, quand j'ai dit N, vous n'avez pas pensé à un quart de noir, ça n'a pas de sens. C'est une propriété qui n'arrive que quand vous avez le mot complet dans le bon ordre. Si je mélange les lettres, ça ne marche pas non plus. C'est ce qu'on appelle une propriété émergente, c'est-à-dire qui émerge de l'association d'éléments qui au départ ne la possédaient pas, et pour des raisons historiques, conventionnelles, pourquoi c'est noir, pourquoi c'est black en anglais, ça n'a pas d'importance. Le fait est qu'il y a ce phénomène de la propriété émergente attachée non pas à un objet, mais à un assemblage d'objets dans un ordre précis. Et maintenant, je vais dire La nuit est noire. J'ai pris des mots, j'ai fait une phrase avec un sens, une propriété émergente. La nuit est noire. J'ai joué le même jeu que tout à l'heure, sauf que j'ai pris des éléments qui résultaient de la précédente. Et je peux ensuite associer les phrases et faire des paragraphes, et faire des chapitres, et faire des livres, et des collections, et des bibliothèques. Tout le savoir humain est concentré dans ce mode. Ça change de civilisation en civilisation, mais toujours cette idée des propriétés émergentes apparaît dans ce qu'on appelle la pyramide des alphabets. La pyramide des alphabets, vous allez la trouver ici, je l'ai remis là. À l'étage d'en bas, vous avez des lettres, vous faites des mots, vous faites des phrases, vous faites des paragraphes, vous faites des chapitres, des livres, des bibliothèques. Et le résumé auquel on va arriver, c'est que ce mode de construction du savoir est celui que la nature a toujours utilisé. Ce mode de construction, c'est assez récent. Ça fait 6000 ans à peu près que c'est né, quelque part près du golfe Persique. Ce sont les Persans, la civilisation de Marie, la civilisation de Babylone après coup, qui ont inventé ce mode de stockage. Ensuite, ça s'est répandu d'une part vers l'Inde, vers la Chine, vers le Japon, puis d'autre part, ça s'est répandu vers l'Égypte, la Grèce, Rome, l'Europe, et maintenant, toute la planète utilise ce mode de structuration de son savoir. Ce qu'on découvre maintenant, c'est que ce mode de structuration est le même que la nature a toujours employé. Sauf que la pyramide n'est pas la même. Et je vais vous montrer la pyramide. La voilà. Voilà la pyramide de la nature. Vous avez exactement la même chose, des éléments qui sont utilisés pour faire des éléments au-dessus. Par exemple, si vous prenez de l'eau. De l'eau, c'est une molécule. C'est fait avec de l'hydrogène et de l'oxygène qui sont des atomes. C'est comme un mot fait avec des lettres qui sont faits avec des neutrons et des protons, lesquels sont faits avec des quarks. Et les molécules, ensuite, sur la Terre en tout cas, sont associées pour faire des cellules vivantes. Ces cellules vivantes font les organismes. Nous, on est là. On est quelque part là, avec les vers de terre ou les champignons. Nous sommes tous à cet étage. Organisme. Et puis, au niveau supérieur, les écosystèmes, ce que nous découvrons aujourd'hui. Ça, c'est le résumé. C'est un résumé en une phrase. La nature est structurée comme un langage. C'est un résumé de ce que vous apprend la physique. Ça, c'est le domaine de la physique. Ça, c'est le domaine de la chimie. Ça, c'est le domaine de la biologie. Et là, vous auriez la sociologie et les sciences humaines qui arriveraient quelque part là. Donc, le premier résumé des sciences, c'est ça. La nature est structurée comme un langage. Remarquez que c'est un anachronisme. C'est un anachronisme parce que la nature le fait depuis 15 milliards d'années. Nous le faisons depuis 6 000 ans. Donc, il faudrait mieux dire le langage est structuré comme la nature. Mais en fait, ça se défend si on se rend compte qu'il a fallu d'abord développer le langage pour découvrir la physique, pour découvrir la science, et que ce n'est que grâce à l'invention du langage qu'on est arrivé au niveau à pouvoir formuler ceci. Ça, c'est le message des sciences. Le message d'astronomie va nous apprendre quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, sur la Terre, il y a de tout ce monde-là. Tous ces étages-là sont habités. Il y a de tout cela. Il y a 13 milliards d'années, ces étages-là étaient vides. Ces étages-là étaient vides. Il n'y avait que les étages les plus élémentaires. Et cette grimpe, cette montée est un phénomène historique. Nous savons maintenant à quel âge les quarks se sont associés pour former les protons et les neutrons. L'univers avait à peu près un milliardième de seconde. C'était pas très loin. Mais avant, il n'y avait pas de protons et de neutrons. Il a fallu que la température baisse jusqu'au moment où les neutrons et les protons devenaient stables. Les premiers noyaux d'atomes arrivent vers les premières minutes de l'univers. Et puis nous avons, à partir d'ici, là nous n'avons évidemment d'historique que que pour la Terre, puisqu'encore une fois, nous ne savons pas s'il y a des organismes, des écosystèmes ailleurs. Mais sur la Terre, nous avons une bonne chronologie. Nous savons que les premiers organismes vivants, les cellules, les algues bleues, les diatomées, apparaissent quand la Terre a à peu près 1 milliard d'années. Et puis, nous savons que les organismes plus importants, les mammifères, les singes, etc., apparaissent beaucoup plus récemment. C'est un phénomène historique. Donc, deux grandes découvertes majeures, la nature est structurée comme un langage et la pyramide de la complexité est un phénomène historique. Elle s'est érigée au cours du temps. Donc, en résumé, vous avez les 4 éléments fondamentaux de l'histoire de l'univers. Les 4 éléments fondamentaux, c'est que l'univers est en changement, changement profond, pas simplement au niveau anecdotique, mais à la plus grande échelle possible, qu'il change de 4 façons différentes. Une des façons, c'est qu'il se refroidit, il se raréfie, il s'obscurcit, mais il s'organise, apparaissent des organismes. Et nous avons aujourd'hui des phénomènes, par exemple, le premier niveau, les quarks s'associent pour former les protons et les neutrons. Et là, j'ai tenu à vous montrer cet accélérateur du CERN. Si vous voulez une idée de l'échelle, voilà des êtres humains ici. Vous voyez ce que c'est qu'un détecteur aujourd'hui. Ce sont des détecteurs qui vont peut-être nous permettre, parce que vous êtes peut-être posé des questions, vous vous êtes dit pourquoi il a mis des points d'interrogation là. Eh bien, parce que si on sait que les lettres, c'est le niveau zéro du langage, les lettres ne sont pas constituées d'autre chose. On n'a aucune raison d'affirmer que les électrons ne sont pas eux-mêmes des structures. Ça fait partie des questions. Et que ces structures, peut-être, sont elles-mêmes composées de structures inférieures, ça fait partie des questions que peut-être le télescope, l'accélérateur va nous donner des réponses. Est-ce que les électrons sont de vraies particules élémentaires ? Au sens où les lettres sont élémentaires, primitives, non pas composées d'autre chose. Ça fait partie des questions auxquelles on ne sait pas répondre aujourd'hui. Et puis, nous arrivons maintenant aux étoiles. Alors là, c'est un astrophysicien anglais, Fred Hoyle, qui a été le premier à formuler cette idée que les atomes dont nous sommes constitués, le carbone, l'azote et l'oxygène, sont dus aux étoiles. C'est-à-dire, les étoiles ne font pas que nous faire des beaux cieux qui nous crée de l'angoisse ou du plaisir, elles sont responsables ici de la formation des atomes. Tous les atomes dont nous sommes constitués sont formés à l'intérieur des étoiles où il fait très chaud et où il y a des réactions nucléaires. Et là, nous revenons à nos galaxies. Nous allons voir d'un peu plus près, nous allons faire un zoom dans notre Voie lactée, qui est un lieu où se forment des étoiles. Et je vais vous montrer quelques belles images de la formation des étoiles, puisqu'elles nous touchent directement, en ce sens que quand vous touchez votre corps, vous touchez des tissus, ces tissus sont faits de cellules, ces cellules sont faites de molécules, et en définitive sont faits d'atomes, surtout de carbone, d'azote et d'oxygène, c'est 80% du corps humain. Ces atomes n'existaient pas au tout premier temps de l'univers, c'est grâce aux étoiles qu'ils existent, et là vous avez une région de formation d'étoiles. Vous avez ces masses sombres ici, et ça, ce sont de nouvelles étoiles qui se sont formées récemment à partir de ces masses nébulaires. Vous l'avez encore une fois, vous la retrouvez aussi, c'est encore une région de formation d'étoiles, et peut-être la plus impressionnante et la plus expressive, c'est celle-ci. Ça, c'est ça, une nébuleuse interstellaire. C'est une grande masse de gaz et de poussière qui s'effondre sur elle-même, sur son propre poids, parce qu'elle n'est pas solide, c'est du gaz. Et en s'effondrant, elle donne naissance à des étoiles. Voilà des étoiles qui se sont formées, qui sont naissantes, qui viennent d'apparaître, et il y a continuellement de nouvelles étoiles qui se forment dans notre galaxie, en moyenne 3 ou 4 par année. C'est un phénomène récurrent qui se poursuit depuis des milliards d'années. Notre Soleil est né dans des conditions analogues, il y a 4 milliards 500 millions d'années, et ça continue. Et puis, je vais vous montrer des étoiles un peu plus jeunes, un peu plus vieilles. Ce sont les Pléiades. Les Pléiades, ce sont ces étoiles qui sont nimbées. Ne faites pas attention qu'elles sont à l'arrière. Celles-ci sont nimbées, encore entourées de leur matière placentaire, qui va probablement donner des planètes, probablement dans des conditions analogues, que le Soleil et le système planétaire est né il y a 4 milliards 500 millions d'années. Dans certains cas, Il y a des amas beaucoup plus importants. Là, vous avez un immense nuage qui s'est effondré sur lui-même et qui a donné naissance à 1 million d'étoiles. Là, vous avez sous les yeux 1 million d'étoiles qui se sont formées en même temps. Et puis, ces étoiles vont vivre leur vie, vont former des éléments, et à la fin de leur vie, elles vont mourir. Là, vous avez l'image d'une étoile qui est morte le matin du 4 juillet de l'an 1054. Ça fera bientôt 1000 ans. Elle a été observée par des astronomes chinois qui ont vu apparaître dans le ciel une étoile en plein jour. Et cette étoile, évidemment, ces astrologues chinois avaient un rôle précis. Quand ils voyaient quelque chose de spécial, ils avaient pour mission d'aller voir l'empereur et de lui dire « qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est le message que véhicule cette étoile qu'on a vue en plein jour ?» Alors, nous, on a encore des données, ces gens étaient des gens très minutieux. L'étoile est restée visible pendant plusieurs mois, elle est disparue le jour, elle est disparue la nuit, et après, elle est disparue complètement. Mais ils nous ont laissé des cartes célestes très précises, c'est dans la constellation du Taureau, c'est près d'Aldébaran, et quand on regarde dans cette direction, voilà ce qu'on voit. On voit ce qui reste de cette étoile qui est en expansion, en évolution, c'est une étoile gigantesque qui est en évolution depuis 1000 ans. Et pour l'astronome, les couleurs sont des signatures. Chaque couleur peut être associée à un atome. Ça, ce sont des atomes d'azote. Ce qui est vert ici, ce sont des atomes d'oxygène. Aujourd'hui, c'est une science tellement précise que quand on voit une lumière, on peut dire quel est le type d'étoile qui a émis le type d'atome qui a émis cette étoile, cette lumière, à quelle température, à quelle densité, dans quel champ magnétique, etc. Et donc aujourd'hui, on peut très bien interpréter tout ceci en termes de voilà une étoile qui a fini sa vie, qui a produit sa moisson d'atomes et qui la restitue à l'espace. Elle va se répandre dans l'espace et elle va enrichir le milieu interstellaire et former progressivement de nouvelles étoiles. Il y a comme un cycle, il y a des générations d'étoiles qui se poursuivent, qui naissent, qui vivent, qui meurent, qui émettent des atomes, et progressivement le ciel s'enrichit en atomes. Voici ce qui reste d'une étoile qui est morte, celle-là, il y a 30 000 ans. Et celle-là, évidemment, nous n'avons pas de record, parce qu'il y a 30 000 ans, les humains n'écrivaient pas, mais nous pouvons reconstituer en l'étudiant qu'il y a 30 000 ans, 30 000 ans, c'est l'époque de Vallon-Pont d'Arc, les peintures les plus anciennes rupestres. À cette époque, cette étoile devait être presque aussi brillante que le soleil. C'est-à-dire que ces gens ont eu 2 soleils pendant plusieurs mois. Alors, il y a beaucoup d'études qui se font. On essaie de voir s'ils auraient laissé dans les grottes des traces. On n'a rien trouvé, en fait. On n'a vraiment rien trouvé. Mais il est sûr que pour ces gens, ça a dû être une expérience très importante d'avoir 2 soleils pendant des mois. Et voilà cette étoile qui est en train maintenant de se dissoudre. Vous voyez très bien comment, dans quelques milliers d'années, on ne verra plus rien. Ce sera dispersé dans l'espace. Et avec toute cette matière se forme un système solaire. Ça, maintenant, ça nous intéresse directement. Avec le Soleil, avec Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton qui est quelque part là. Et là, on arrive à ce phénomène extraordinaire. Les découvertes sur les planètes nous montrent combien les planètes autres que la Terre ne sont pas amicales à la vie. Il n'y a pas d'eau liquide, comme je vous ai dit. Les températures sont de 400 degrés ou de moins 200 degrés. On est frappé de la différence qu'il y a entre les différentes planètes et la nôtre, qui est quelque chose de très spécial, qui a des conditions très spéciales. Alors, je reviens à cette image, la voici, notre planète. Vue de la Lune, vous voyez la différence. La Terre est bleue, il y a des océans. Sur la Lune, c'est de la rocaille, c'est du désert, il n'y a pas de vie possible. Et là se produit une nouvelle étape de cette montée. Maintenant, nous sommes ici, la Terre vient de se former, Il y a de l'eau, dans cette eau apparaissent les cellules, c'est ce que je vous disais, on ne sait pas très bien comment ça s'est produit, mais ça s'est produit, évidemment. Et plus tard apparaissent les organismes, apparaissent les écosystèmes, les molécules s'associent pour former des cellules vivantes. Et un exemple, ce sont ces petites diatomées, c'est minuscule, c'est invisible à l'œil nu, mais c'est parmi les premiers vivants qui ont existé sur la Terre et qui ont, par évolution, donné naissance à toutes les formes différentes. Les cellules s'organisent pour s'associer, pour former des organismes vivants. Vous avez un exemple avec les pissenlits. Et maintenant, je vais arriver à un dernier aspect de ce rapport entre le ciel et la terre, ce rapport entre nous et l'univers. C'est une phrase qui a été écrite par un philosophe grec qui s'appelle Démocrite. Démocrite était un philosophe assez obscur. On l'appelait Démocrite l'obscur parce qu'il était difficile à comprendre. Et il a écrit, par exemple, cette phrase. Tout arrive par hasard et par nécessité. Et les gens disaient, mais écoutez, ça n'a pas de sens. Si c'est par hasard, c'est pas par nécessité. Si c'est par nécessité, ça n'est pas par hasard. Eh bien, il nous a fallu 2000 ans, grâce à la physique quantique, grâce aux théories du chaos déterministe, pour nous apercevoir que Démocrite avait tout à fait raison. Et je vais vous l'illustrer avec une image qui est celle-ci. Ce que vous voyez, évidemment, ce sont des cristaux de neige. Vous remarquez deux aspects différents et importants. Le premier, c'est qu'ils ont tous 6 pointes. Ça, c'est la loi de la physico-chimie qui dit les cristaux de neige, H2O, auront 6 pointes. Il n'est pas question de déroger à cette loi. Ce n'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs. Il y a des rares cas où il y en a 3, mais enfin, pour l'instant, ce n'est pas très important. Disons, 6 pointes, c'est la forme générale. Mais la loi ne va pas plus loin que ça. Elle dit... Quand vous aurez accompli ce que je vous demande, vous faites n'importe quoi. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et là s'introduit une dimension de hasard qui fait que tous ces cristaux, même s'ils ont 6 pointes, sont tous différents. Je pourrais vous en montrer des centaines ou des milliers. Vous verriez chaque fois des formes différentes. Et c'est bien ce qui nous plaît. S'ils étaient tous pareils, on en regarderait un et c'est terminé. S'ils étaient complètement chaotique et sans structure, ce serait la même chose. C'est le mode de fonctionnement de la nature. Elle joue sur les deux cordes. Elle joue sur la corde loi. Il y a des lois, il n'est pas question d'y déroger, mais ces lois ne sont pas totalement déterminantes, ne déterminent pas complètement la forme finale que ça va prendre. C'est-à-dire, c'est l'introduction de la créativité, de la variété, de la diversité. C'est pour ça que dans la nature, les choses obéissent à des lois, mais la richesse de la nature, c'est qu'elle permet, passer une certaine rigueur légaliste, de faire n'importe quoi. Pourquoi les cristaux sont différents? C'est qu'ils flottent longtemps dans les nuages avant d'arriver au sol, et ils passent dans des nuages plus ou moins humides, plus ou moins denses, et chaque nuage va donner à signer une particularité qui va toujours respecter la symétrie hexagonale, 6 pointes, mais qui va permettre d'avoir des variations très importantes. Et ça se retrouve évidemment au niveau du monde vivant. À quoi sert un papillon? Le papillon sert à polliniser les fleurs. La nature aurait pu dire, bon, je vais faire un modèle, puis ça va. Mais ce n'est pas son mode de fonctionnement. Elle ne fait pas un modèle de papillon, elle en fait... Il y en a plus de 25 000. Ils ont tous la même rôle, mais ils ont des formes qui peuvent être indéfiniment différentes, comme vous voyez ici, comme vous voyez ici. Et c'est là qu'on découvre cette particularité. La nature, encore une fois, est structurée comme un langage. La pyramide du temps s'érige au cours du temps, et la nature joue sur deux tableaux qui fait que s'il n'y avait que des lois, ce serait la monotonie. Les lois ne font toujours que du pareil au même. S'il n'y a pas de loi, le hasard pur ne fait que du fouillis. Si vous avez les deux possibilités, c'est le secret de la nature. pour arriver à voir toute sa richesse et que nous retrouvons chez nous-mêmes. Nous sommes 6,5 milliards. Nous obéissons tous aux lois de la nature, pas toujours aux lois civiles, mais les lois de la nature, nous obéissons toujours. Et pourtant, nous sommes tous différents. C'est un bon exemple de cette créativité, de cette diversité de la nature que je voulais vous citer en exemple pour terminer ce que nous avons appris sur le mode de fonctionnement de la nature. Encore une fois, l'univers n'a pas toujours existé, il a un âge. L'univers, son histoire, c'est de se refroidir, de s'obscurcir et de devenir de plus en plus dilué, mais aussi de se structurer un peu partout, et se structurer d'une façon un peu spéciale, qui est la structuration qui est basée sur les deux principes de la loi et de la, ce que Démocrite appelait la nécessité, c'est la loi, c'est la même chose, le hasard, le jeu, et nous le retrouvons au niveau aujourd'hui de la création. Les œuvres musicales, par exemple, il y a toujours eu des règles musicales. Au temps de Bach, il y avait des règles musicales. Maintenant, elles sont changées. Les règles de la musique rock ou du disco ne sont pas les mêmes que les règles de Bach. Mais ces règles, également, structuraient l'œuvre, mais pas complètement. Si les règles musicales au temps de Bach avaient été totalement déterminantes, Bach n'aurait fait qu'une seule cantate. Et on ne l'écouterait plus depuis longtemps. Il a fait 343 cantates qui sont toujours en accord avec les règles musicales, mais qui peuvent avoir cette variété. Voilà, je vous remercie. Merci. On a prévu une période de questions. Si quelqu'un veut poser des questions, je peux essayer d'y répondre, de préférence dans le cadre de cet exposé, mais ça peut être aussi différent. Oui, je crois que venir au micro, c'est la bonne idée.
Merci. J'ai une question à vous demander qui est sur les... On se perçoit comme étant des êtres isolés, coupés. Et votre exposé nous laisse croire qu'on nous sommes en relation constante avec l'univers. Il y a dans les traditions orientales particulièrement la conception d'un corps énergétique. Certains disent l'aura, d'autres parlent des chakras, les méridiens, pas dans d'autres traditions. Est-ce que ce serait là un véhicule de notre relation vivante avec l'univers à tout instant?
Je crois, je ne suis pas particulièrement au courant ou spécialiste de ces questions, mais il est certain que chaque civilisation a développé des modes de rapport avec la nature et que ces rapports sont des rapports valables. On dit toujours les grandes questions sont universelles, mais les réponses sont culturelles. C'est sûr que les modes de fonctionnement des différentes cultures sont différents à cause justement des milieux sociaux, des influences sociales. Je crois que ce dont vous parlez, c'est quelque chose de très intéressant. Je ne peux pas vraiment y répondre. Je suis sûr qu'il y a des gens ici qui pourraient y répondre beaucoup mieux que moi, mais je pense que c'est intéressant effectivement de regarder ces différents aspects. C'est beaucoup ce qu'a fait Carl Jung d'ailleurs, qui a essayé de voir qu'est-ce qui était apporté par les différentes civilisations dans leur tradition, leur forme de mythologie et tout ça. C'est quelque chose de tout à fait passionnant, oui, tout à fait d'accord. Oui.
Bonsoir, j'ai deux questions à vous poser. Donc, la première, ça concerne donc les galaxies. Vous dites qu'il y a des trous noirs au centre de la galaxie. Oui. Donc, est-ce que ça veut dire que chaque galaxie est en train de s'effondrer sur elle-même? Non. Est-ce que chaque galaxie a tendance à disparaître parce qu'elle son centre est un trou noir. Ma deuxième question, ça concerne justement le CERN. Il y a des hypothèses qui disent que quand le CERN sera fonctionnel, il y a une possibilité de créer un micro trou noir, et peut-être que ça peut être dangereux. Donc, je voudrais connaître vos commentaires sur ce point. Merci.
Oui. Alors, la première question sur les trous noirs. Non, les trous noirs, ce n'est pas vraiment dangereux. Il ne faut juste pas s'approcher trop près. Et ils ne sont pas dangereux sur une grande distance. C'est-à-dire, si un trou noir a un rayon, par exemple, eh bien, à 10 fois ce rayon, vous pouvez tourner autour, mais vous n'êtes plus happé. L'aspirateur géant que représente un trou noir a une portée très limitée, ce qui fait que très peu d'étoiles sont absorbées. Il y en a, on en voit quelquefois, on voit des flashs, une lumière vient d'entrer dans le trou noir, mais ça ne représente pas un danger pour la galaxie. Les étoiles sont très loin et très peu d'entre elles, sauf si elles sont justement dans une vitesse qui les amène au centre. C'est ce qui arrive quand il y a des collisions de galaxies, par exemple. On sait que les collisions, les trous noirs, généralement, c'est un peu comme des ogres, mais quand ils n'ont rien à manger, ils ne s'expriment pas. Ils ne se manifestent pas. Quand ils ont quelque chose à manger, si de la matière tombe sur eux, ce n'est pas eux qui s'expriment. Un trou noir, ça n'émet pas de lumière. Mais la matière qui tombe sur lui se met en orbite autour de lui, fait ce qu'on appelle un disque d'accrétion, un peu comme quand vous enlevez le bouchon dans votre baignoire. L'eau se met à tourner très, très vite et cette matière se réchauffe et émet beaucoup. Et on peut voir certains trous noirs qui sont revitalisés parce qu'une autre galaxie entre en collision avec eux et là, la matière peut tomber sur le trou noir. Donc, sur le plan des trous noirs, il n'y a pas de danger, non plus que sur le plan du CERN. Et la meilleure preuve, voilà, l'idée était la suivante. Il y a même un groupe qui a essayé d'arrêter la mise en œuvre de l'accélérateur du CERN sur le prétexte que le CERN pourrait faire des collisions tellement énergétiques qu'il pourrait se produire des petits trous noirs, mais des petits trous noirs qui boufferaient tout ce qu'il y a autour d'eux et qui deviendraient catastrophique. Alors, je dirais la preuve la plus simple que ça ne serait pas le cas, vous l'avez devant vous chaque fois que vous regardez la Lune. Pourquoi? Parce que la Lune, le CERN produit les particules les plus énergétiques que les êtres humains ont produits. Mais la nature, ce qu'on appelle les rayons cosmiques, sont des milliards de fois plus énergétiques. Et la Lune est continuellement bombardée, comme la Terre, comme tout le monde, de rayons cosmiques. Et s'il y avait la moindre probabilité qu'un phénomène comme celui-là se produise, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de lune, plus de terre, plus d'étoiles, plus rien. Pour moi, je pense qu'il suffit de regarder la lune et ça peut vous rassurer, il ne se passera rien de ce genre. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui?
En fait, ma question, c'est que vous avez parlé que l'univers, tantôt, ben, en fait, il y a un âge. Donc, si l'univers a un âge, c'est que vous disiez au début qu'il était comprimé, il était ultra chaud et tout. Sauf que, si, admettons, on pouvait considérer ça comme quelque chose de ponctuel qui prend de l'expansion, pourquoi est-ce qu'on dit que l'univers est fini? Si je tends mon bras, admettons, dehors de cet univers-là, je suis encore dans un espace physique. C'est quoi le vide? C'est ça que je comprends pas. On dit que l'univers est fini, sauf que on voit, comme vous disiez tantôt, on voit les rayons cosmologiques et tout, puis ça revient, ça s'en va et tout, mais s'il y a un rayon qui arrive au bout, il arrive quoi avec le rayon? Il revient-tu? C'est une question qui est assez... C'est comme un dilemme, en fait. Là. Vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, oui, oui. Oui, je vous comprends. Il n'y a pas deux espaces. Il n'y a pas un espace dans lequel il y a de la matière, des galaxies, et un espace vide dans lequel l'univers prendrait place. Ça, c'est le défaut de la comparaison. Dans une comparaison, vous avez de la matière chaude qui s'en va dans un espace vide. Dans l'univers, c'est partout pareil. Et si vous voulez garder l'image de la comparaison, de l'explosion, il faut supposer que ça explose de partout. L'univers n'a jamais été concentré en un point. Il est homogène. On a toutes les raisons de penser que ce que vous avez vu tout à l'heure et que je vais vous représenter, si vous alliez ailleurs, vous verriez en gros la même chose. Ce serait différent, ce ne seraient pas les mêmes galaxies, mais ce serait la même chose. Je vous ai dit, on ne sait pas s'il est infini ou s'il est fini. S'il est infini, il n'y a pas de problème. S'il est fini, ça veut dire qu'il est courbe sur lui-même. Ça veut dire que vous reviendrez au même point si vous voyagez suffisamment longtemps. De même façon que si vous faites le tour de la Terre en avion, vous ne verrez jamais, à un moment donné, ça va être écrit « fin de la Terre ». Vous verrez toujours des choses nouvelles. C'est qu'à un moment donné, vous allez revoir les mêmes continents. Vous allez dire « tiens, j'ai fait le tour puisque je n'ai pas de frontières ». Il faut faire une distinction entre ce qui est infini et illimité. Illimité qui n'a pas de limite, la Terre n'a pas de limite, il n'y a pas de limite à la Terre, mais elle n'est pas infinie dans le sens que sa surface n'est pas infinie. Donc, je crois qu'il n'y a pas de problème de ce genre, mais c'est assez difficile de s'imaginer. Ça donne effort d'imagination, et il faut bien se rendre compte que notre imagination, elle s'est construite au cours de l'évolution à notre échelle. Elle est à l'aise dans un monde qui est à notre échelle. Elle n'est pas à l'aise dans un monde qui nous dépasse complètement, mais il faut essayer de s'adapter. Souvent, je dis à mes étudiants, bien, vous prenez un quart d'heure chaque matin pour essayer de vous adapter à la réalité que nous apprend la cosmologie, et puis ça vient à un moment donné, ce n'est plus un problème, vous êtes à l'aise. L'imagination est limitée, le mental n'est pas infini, n'est pas limité. Les mathématiques, vous êtes beaucoup plus à l'aise si vous faites des mathématiques dans un espace infini que dans un espace fini. Dans un espace fini, vous êtes toujours coincé, il y a un mur. Et donc, ce qui s'étend ici se comprime là. Dans l'infini, il n'y a pas de mur. Donc, il y a toujours de la place. Vous avez toujours de la place pour l'expansion. Oui?
Bonsoir, puis merci pour cette merveilleuse soirée. Je voudrais remercier aussi ma petite sœur Marguerite qui, il y a 60 ans, me montrait le merveilleux du ciel à travers la fenêtre de la chambre de bain chez nous. Et voici, j'ai deux petites questions, amusantes un peu, qui concernent un petit peu Lucas. La première, c'est qu'on a eu ici, au Centre Pierre Charbonneau, en fin de semaine dernière, une exposition de minéralogie et de fossiles. Est-ce que, dont certains de 450 millions d'années, est-ce que à ce moment-là, il y avait des ancêtres, des constituants de nous aujourd'hui qui auraient gardé des traces de ces images-là et pour les amener jusqu'à aujourd'hui?
Il y a combien d'années?
Ben, les fossiles là, dont je fais allusion, il y en a de 450 millions d'années, oui, mais il y en a eu d'autres par après. C'est oui, très loin. C'est beaucoup plus loin que les 80 millions d'années. Mais il y a 80 millions, il y en avait quand même beaucoup de fossiles oui, déjà existants. Oui. Et puis ceux-là, évidemment, est-ce que dans toute l'arbre de la vie, dans nos ancêtres, je pense à l'expression Homo Lucas, là, est-ce qu'il y en a qui auraient amené cette image-là jusqu'à nous aujourd'hui? On peut en avoir des traces dans notre cerveau.
Bon, les êtres humains ne sont pas très anciens sur la Terre. Hein? C'est tout à fait nouveau à cette échelle-là. Oui. Notre lignée qui s'appelle Homo sapiens, elle est née il y a 200 000 ans. C'est rien. Et avant qu'on réalise, c'est tout à fait récent qu'on réalise qu'il y a parmi nous des fossiles. Jusqu'au 19e siècle, on ne croyait pas beaucoup qu'il y avait, que ce qu'on trouvait, les ossements, les squelettes de dinosaures, représentait quelque chose qui était très ancien. On disait c'est le déluge. Ils ont été éliminés par le déluge et puis on les retrouve maintenant. C'est quelque chose qui est récent. Mais je ne suis pas sûr de bien comprendre votre question, en fait.
Ah, ben c'est simplement pour savoir, ben, comme dans nos gènes, tout ça, on pourrait avoir gardé une image de ça qui nous aurait transmis.
Je n'ai aucune raison de le penser. Je n'ai jamais vu de raison de penser que ce serait le cas. On ne sait jamais.
Alors, la deuxième question, c'est que j'ai lu il y a des dizaines d'années un livre de l'écrivain de science-fiction, mais aussi un scientifique, Isaac Asimov, « Quand les ténèbres viendront ». Alors, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais il s'agit d'une histoire où il y a plusieurs soleils autour d'une planète et puis les soleils disparaissent. On peut avoir une idée de ce qui va se passer, la frayeur, mais ma question, c'est aujourd'hui, si une telle chose avait été possible dans l'univers, est-ce qu'on pourrait en voir des traces et qu'est-ce qu'on devrait rechercher? pour le savoir.
Je ne connais pas de traces de phénomènes. Asimov est un très bon romancier qui a fait beaucoup de science-fiction. De là à penser que ça représente une réalité, j'en suis pas certain.
Mais quand il y a une étoile, une planète...
Si vous voulez, on va laisser les personnes derrière vous poser d'accord, des questions, là, parce qu'il y a plusieurs personnes qui aimeraient poser des questions. Oui, ce côté, oui, s'il vous plaît.
Bonsoir, M. Reeves. Ma question va un peu dans la continuité de votre présentation. Vous avez dit, en fait, que, dans le fond, la physique, ça évolue à travers le temps. Puis aujourd'hui, on est rendu un peu à la période de la physique moderne. Puis il y a plusieurs physiciens qui tentent de faire un parallèle entre les théories qui les règles qui gouvernent l'infiniment grand et l'infiniment petit. Puis j'aimerais ça que vous commentiez la validité puis la crédibilité de la théorie des cordes.
Oui, c'est une théorie qui était très populaire, qui avait comme prétention d'expliquer d'où viennent les particules élémentaires. C'est une théorie qui est très belle sur le plan théorique, mais qui, depuis 30 ans, n'a apporté aucune confirmation. Or, la physique, c'est pas simplement de la théorie, c'est aussi expliquer des faits. Ce qu'on demande à une théorie physique, c'est d'expliquer des choses qu'on ne comprenait pas auparavant. Et la théorie des cordes n'a rien apporté, c'est ce qu'on lui reproche, et le moral des troupes n'est pas au meilleur. Je pense qu'elle a eu la prétention d'être la théorie ultime, et maintenant, les gens y croient de moins en moins. Il y a plusieurs livres qui ont été écrits. Par exemple, il y a un livre d'un auteur américain qui s'appelle Lee Smolin, qui s'appelle The Trouble with Physics, et qui dit qu'effectivement, depuis une trentaine d'années, la physique théorique piétine. Et c'est rare dans l'histoire de la physique théorique. Chaque décennie, généralement, apporte des choses nouvelles. Je parle de la compréhension. Sur le plan de l'observation, nous avons des instruments de plus en plus extraordinaires, ça va très bien. Mais, disons, on n'a rien appris d'intéressant depuis 1970, si on doit résumer. Et c'est ce que prétendait la théorie des cordes, qu'elle pourrait nous apporter quelque chose, elle ne l'a pas fait. Alors, il y a des gens, des irréductibles qui continuent à y travailler, et tant mieux, parce que c'est une théorie extrêmement mathématiquement compliquée. Moi, j'ai passé pas mal de temps à essayer de la comprendre. Puis, à un moment donné, je me suis dit, je vais attendre qu'elle fasse ses preuves. On n'a pas du temps pour faire n'importe quoi. Mais à un moment donné, avant d'investir dans une théorie, ça met du temps. Il faut avoir la conviction que vous allez gagner quelque chose. Par exemple, si vous étudiez la théorie de la relativité d'Einstein, c'est compliqué. Mais vous savez que ça a apporté beaucoup, que ça a bouleversé toute la connaissance du monde. La théorie des cordes, apparemment, n'a rien bouleversé du tout. C'est pour ça qu'on est un peu déçus. Mais on verra. Affaire à suivre. Oui, madame.
Je voudrais juste savoir, vous avez dit qu'il y avait des longueurs d'onde qui avaient confirmé la théorie du Big Bang.
Oui.
Mais comment on peut savoir que ces longueurs d'onde-là venaient pas de quelque chose d'autre dans l'univers qu'on n'aurait pas encore compris?
Oui, évidemment, ça a été l'objection qui a été faite au début. Et est-ce qu'on pouvait, pendant des années, les gens cherchent à trouver d'autres explications? Très souvent, en science, devant un phénomène, on a une explication, et puis on dit, mais c'est peut-être autre chose. Et on essaie toutes les autres choses, et toutes les autres ne marchent pas. Et celle qui marche très bien, c'est la théorie du Big Bang. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est la vérité, mais ça veut dire qu'elle a de la crédibilité. Pour une théorie d'être capable d'expliquer quelque chose avec une très grande précision, c'est important.
Quel livre vous me suggériez pour essayer de comprendre la théorie des longueurs d'onde par rapport au Big Bang, que je pourrais mieux comprendre, peut-être?
Pardon?
Quel livre que je pourrais lire pour essayer de comprendre, dans le fond, la longueur d'onde
Vous regardez sur Google, vous avez plein de textes qui vont vous l'expliquer. Vous prenez Google, vous avez Internet, vous prenez l'Université de Berkeley, qui a un centre éducatif et qui vous donne plein d'explications. Heureusement, grâce à Internet, aujourd'hui, c'est devenu facile de vous poser une question et vous avez 50 réponses. Le problème, c'est que vous en avez trop. Vous avez le choix. Oui?
Moi?
Oui, il y avait quelqu'un de l'autre côté, non? Ah oui, c'est vous, oui. Madame, pardon, oui.
Oui. Bonjour, Monsieur Reeves. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a une corrélation entre ce qu'on appelle l'astronomie et l'astrologie? Je vous explique pourquoi. J'ai vu qu'il y avait une influence sur les planètes. Vous avez parlé à un moment donné d'énergie. Est-ce que ce serait comme une espèce de fluidité qui permettrait de dire qu'il y aurait comme une influence sur... Parce qu'on a, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on partait vraiment de rien pour arriver dans votre espèce d'arborescence, pour arriver à l'humanité. Et est-ce qu'on pourrait dire aussi, est-ce que ce serait une interprétation de... Je ne sais pas. Est-ce que ce serait une interprétation de se servir d'instruments d'astrologie pour expliquer que ça aurait une influence sur l'humanité ou quelque chose comme ça?
Oui, c'est possible. Moi, chaque fois que je me suis intéressé à l'astrologie, j'ai été déçu. Je n'ai pas trouvé de choses intéressantes. Je vous donne mon opinion personnelle. Il y a d'autres personnes qui, au contraire, sont passionnées et chacun a droit à son opinion. Personnellement, je n'ai jamais vu de choses intéressantes, surprenantes, qui m'apprenaient quelque chose de nouveau. Alors, je suis désolé, je ne peux pas défendre une science qui ne m'a jamais rien appris. Oui.
Oui, sur la première photo de galaxie qu'on a observée.
Oui. La première, oui, c'était celle-ci peut-être.
Oui, en effet.
C'est celle-là ou c'est la
première? Oui, non, c'est celle-ci. Oui. Qu'est-ce que la forte lumière jaune sur la queue de la galaxie? Est-ce que c'est juste une autre galaxie en arrière?
C'est une autre galaxie qui est capturée par la première et qui s'est mise en orbite. C'est vraiment un phénomène orbital. Les galaxies entrent en collision maintenant, on le sait, ils ont des tas d'influences. Et en particulier, une galaxie qui approche d'une autre attire et fait de longs bras qui viennent la rejoindre. Ce sont comme des ponts de matière qui sont émis, qui sont soumis à l'attraction et qui sont bouffés. Il y a toute une sociologie des galaxies, elles sont très cannibales, elles se bouffent les unes les autres. On a pensé longtemps que c'était des mondes tout à fait fixes, mais ce n'est pas vrai du tout. Elles sont en interaction constante. Il y a des magnifiques photos de collisions de galaxies, par exemple. Là, j'en ai pas là-dessus, mais c'est un phénomène très fréquent.
Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a une question de l'autre côté? Oui.
Oui, bonsoir. En terminant, vous avez parlé de la liberté qu'avait la matière pour se développer. Vous avez montré, par exemple, les flocons de neige, les papillons. Ma question est, est-ce que cette liberté-là aurait été possible avec des théories uniquement déterministes? Ou est-ce que c'est un effet de la nature probabilistique de la mécanique quantique?
C'est à la fois le côté probabilistique de la physique quantique, mais plus particulièrement ce qu'on appelle le chaos déterministe aujourd'hui, ce qui fait que même si les choses sont soumises à des lois, il y a tellement d'influences différentes qu'au total, c'est comme s'il n'y avait pas de loi. Mais c'est relié plutôt à la multiplicité des facteurs qui peuvent influencer un phénomène.
Merci.
Encore une ou deux questions? Oui, oui. Monsieur.
Bonjour. J'aurais deux questions. La première est par rapport à un graphique que vous avez montré sur l'ordre dans lequel est apparu les différents niveaux de complexité. Vous n'avez pas beaucoup parlé des molécules et je me demandais simplement si les atomes et les molécules sont apparus exactement au même moment ou si les molécules sont apparues par après, quand les atomes se sont stabilisés d'une façon quelconque.
Alors, les atomes apparaissent dans les étoiles où il fait très chaud et aucune molécule ne pourrait être stable. Si vous mettiez de l'eau dans l'intérieur du Soleil, elle serait immédiatement séparée en hydrogène et en oxygène. La molécule n'est pas assez stable pour maintenir sa stabilité à haute température. Mais quand elle est éjectée dans l'espace, là, il fait froid, et là, elles peuvent se former. Donc, les atomes se forment dans les très hautes températures et les molécules se forment dans les basses températures des milieux interstellaires.
Merci. Et ma deuxième question est par rapport à la mécanique quantique et la relativité générale. Il y a des contradictions entre les deux. La plus évidente, à mon avis, serait celle de l'énergie infinie dans le vide dans la théorie des quanta et l'absence totale d'énergie dans le vide dans la relativité générale. Et je me demandais votre avis, soit philosophique, soit d'un point de vue physique, sur l'ensemble des deux théories, de la façon générale de laquelle ils pourraient s'imbriquer dans une même réalité. Autrement
ça,
dit,
c'est un des grands problèmes de la physique aujourd'hui, c'est de formuler une théorie quantique de la gravité. La théorie de la quantique est excellente quand il n'y a pas de champ de gravité important. Elle donne des mauvais résultats dans des champs de gravité importants. La théorie d'Einstein, qui est la théorie de la relativité, ne peut pas tenir compte du fait que la matière est quantique, c'est-à-dire la dualité onde particule, mais pourtant la matière est fondamentalement dualiste onde particule. Et l'idée d'arriver à faire une seule théorie, théorie quantique de la gravité, c'est le problème majeur de la physique depuis les années 1930. Et là, on n'a fait aucun progrès. La théorie des cordes prétendait pouvoir résoudre ce problème. Elle ne l'a pas résolu. On ne sait pas. Et c'est ce qui nous bloque dans la théorie du Big Bang. Parce que dans la théorie du Big Bang, on arrive dans un passé où l'univers est très dense. Donc la théorie d'Einstein s'applique. Mais en même temps, la matière est l'effet d'atomes. Et Einstein n'a jamais, s'est pas incorporé dans la physique d'Einstein, les atomes. Dans la physique d'Einstein, les atomes sont des petites billes. C'est cette image newtonienne de la petite bille. Ce n'est pas du tout les états d'énergie, tout ce qu'on apprend en physique quantique. C'est un des grands manques de la physique aujourd'hui qui nous bloque un peu partout. Et on espère qu'un jour ou l'autre, un nouvel Einstein va nous faire ce qu'on appelle la réconciliation entre la théorie de la relativité générale et la physique quantique, qui toutes les deux, dans leur domaine, sont excellentes, produisent des résultats précis à une partie dans un milliard. C'est des théories qui sont d'une extrême efficacité. Mais chacun dans leur plate-bande. Si on va dans les plate-bandes communes, ça ne marche plus. C'est un des grands manques de la physique.
Ma question était sur votre avis philosophique par rapport à la façon générale dont on pourrait expliquer... forcément, ils ne se contredisent pas parce que les deux, comme vous dites, sont vrais à une précision vraiment exceptionnelle.
Donc, dans des domaines différents.
Oui, dans des domaines différents. Donc, ce que je me demandais, c'est à votre avis, qu'est-ce qui ferait que, même s'il y a une contradiction apparente dans le côté fondamental des choses, qu'est-ce qui ferait que les deux peuvent être valables et qui sont complémentaires? Et
là, vous posez les questions que tout le monde se pose depuis 70 ans et on n'a pas de réponse pour l'instant.
Oui, mais je veux dire, tout le monde défend des théories différentes. Il n'y en a pas une que vous croyez? Ou
est-ce que si vous voulez, on va passer à l'autre personne qui est derrière vous, là. Ça sera vous, puis après vous. Ce sont les deux dernières. Alors, c'est à vous. C'est un monsieur qui est près du micro, là, oui.
Allez-y. Bonjour. Je veux te demander deux questions. Mais ma première question est un peu dépressante. C'est si vous avez dit que les étoiles vont mourir, alors notre Soleil est aussi une étoile. Est-ce qu'il peut mourir un jour? Et est-ce qu'il y a des expériences qu'ils ont déjà faites comme pour prédire quand le Soleil il va mourir?
Oui, on peut évaluer. Le Soleil va mourir quand il aura épuisé ses réserves d'énergie. Il est comme tout le monde, quand vous avez épuisé vos réserves, vous ne pouvez plus vivre. Et ça, on le date autour de 5 milliards d'années dans le futur.
Dans le futur, OK.
5 milliards d'années, donc ça vous laisse encore un peu de temps. Alors, la dernière question, allez-y.
J'ai une deuxième question.
J'ai lu récemment que, les planètes, par exemple, autour du Soleil, plus la planète est proche, plus elle va tourner rapidement autour du Soleil. Mais autour du trou noir dans une galaxie, j'ai lu, du moins, je ne sais pas si c'est vrai, mais que les astres, les étoiles, en fait, tourneraient tous à la même vitesse et peu importe leur distance du centre de la galaxie. Donc, j'ai jamais trouvé d'explication à ça ou nulle part. Donc.
J'ai jamais entendu. Où est-ce que vous avez vu ça?
C'était dans une revue, mais c'était simplement, si c'est pas vrai, tant mieux, je l'ai appris.
J'ai jamais entendu parler de ce problème. Je ne sais pas.
Ok.
J'ai pas de réponse parce que j'ai jamais entendu parler de cette question.
Merci.
Je vous remercie pour votre attention.